Il est 7h.
Nous les chrétiens, on est persécutés. Je suis en colère. On devient une minorité, c'est à nous de nous cacher.
Le désarroi des habitants de Nice, à nouveau frappé par un attentat 4 ans après l'attaque de la promenade des Anglais. 3 personnes, un homme et 2 femmes, ont été tuées hier dans une attaque terroriste à Nice. L'auteur présumé, un Tunisien de 21 ans, est grièvement blessé. La France est désormais en alerte urgence attentat. La France reconfinée, impossible de se déplacer désormais sans son attestation dérogatoire. Le télétravail doit devenir la règle, même si certains secteurs continueront de tourner. Les commerçants se mettent au click and collect. Les écoles, collèges et lycées resteront ouverts pendant ce confinement, avec l'obligation pour les enfants dès le CP de porter un masque en classe. Ça se fait déjà aux États-Unis. Par peur de la solitude, certains ont choisi de se confiner à plusieurs, partir au plus vite, trouver une maison et se mettre au vert. C'est le choix fait par un groupe d'amis que l'on entendra dans ce journal. Et puis terminer les sorties au cinéma, au théâtre et dans les musées. Vous avez été nombreux hier à vouloir en profiter jusqu'au bout.
Juste après ce journal, l'éclairage éco, Daniel Fortin, avec le reconfinement, le monde du transport urbain aux abois. La question de l'immigration et du droit d'asile posée après l'attaque de Nice hier. Le regard international de Vincent Hervouet. Zlatan Ibrahimovic contre le Covid. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin et nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le plan Vigipirate a été relevé au niveau urgence attentat après l'attaque qui a fait 3 morts hier à Nice. Un homme et 2 femmes tués à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. L'auteur présumé est un jeune Tunisien de 21 ans. Il est actuellement hospitalisé, grièvement blessé lors de son interpellation. Guillaume Bié, bonjour.
Bonjour.
Que sait-on du profil de l'assaillant ?
Alors, on sait désormais que c'est un migrant tunisien qui a commis cette attaque, un jeune clandestin de 21 ans qui, d'après les vérifications, est arrivé très récemment en Europe. Il a débarqué le 20 septembre sur l'île italienne de Lampedusa, où il a été pris en charge, a confirmé le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard.
Il était porteur, au moment de son interpellation, d'un document sous forme d'un papier de la Croix-Rouge italienne au nom d'un ressortissant tunisien né en 1999. Il ressort des premières investigations que cette identité est bien celle de l'auteur. Par ailleurs, l'intéressé est inconnu au fichier national des empreintes digitales. Il est également inconnu des services de renseignement.
Inconnu donc parce qu'il est arrivé en France il y a quelques jours à peine, interdit de territoire par les Italiens, mais laissé libre. Les enregistrements vidéo d'hier matin permettent de reconstituer son parcours depuis la gare de Nice jusqu'à la basilique. Ces 2 téléphones portables retrouvés sur place pourraient éclairer les enquêteurs sur ses éventuels contacts et sa motivation à commettre une telle attaque.
Guillaume Bié pour Europe 1.
À Nice, Emmanuel Macron a appelé hier à ne pas céder à l'esprit de division et de terreur face à cette attaque terroriste islamiste. 4 ans après l'attentat de la promenade des Anglais, les habitants sont sous le choc entre recueillement et colère.
Et Sephora est une fidèle de la paroisse où l'attaque a eu lieu. Elle connaissait bien Vincent, le sacristain assassiné. Niçois de 55 ans, il était père de 2 enfants. Sephora est effondrée.
C'est bien de mettre les bougies, de sortir les fleurs, de dire il ne faut pas faire l'amalgame. En attendant, nous mourons. Et nous, les chrétiens, on est persécutés. C'est ça, en fait. Je suis en colère. On devient une minorité. C'est à nous de nous cacher. Non, c'est pas à nous de nous cacher. Non, ça doit cesser, ça. Il faut prendre des mesures, des actes forts. Il y en a marre des paroles. Il y en a marre de tous ceux qui vont s'en suivre. Oui, 1 minute de silence. Non. Vincent, il a tué tout le monde. Hein. Combien rentraient ? Ils étaient nombreux, de confession musulmane, qui rentraient dans l'église demander de l'argent, à boire, à manger, il leur donnait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est rentré dans l'église, là où il était, il l'a pourchassé dans l'église pour aller tuer Vincent et ses pauvres dames. Non !
Un témoignage recueilli par Frédéric Michel.
Vous les entendez ? C'est Niçois qui demande des actes forts, la classe politique aussi, droite et Rassemblement National, qui demandent une législation d'exception face à une situation de guerre.
Il faut arrêter avec ces pseudo-défenses des libertés individuelles qui ne servent qu'à défendre les terroristes et à menacer notre société, déplore le député LR des Alpes-Maritimes Éric Ciotti. C'est une idéologie qui nous fait la guerre. Il faut les mettre hors d'état de nuire, souligne Marine Le Pen, la présidente du RN. Avec le plan urgence attentat, 7000 soldats de l'opération Sentinelle patrouilleront dans nos rues. Un renfort de 4000 militaires, Conseil de défense est prévu aujourd'hui.
Et le maire de Nice, Christian Estrosi, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin sur Europe 1. 7h05, le confinement acte 2, c'est parti. Depuis minuit et pour 1 mois Au moins, les Français sont de nouveau appelés à rester chez eux.
Pour sortir, des attestations de déplacement sont donc obligatoires. Elles sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur. Et si le télétravail est vivement encouragé, cette fois, les Français vont pouvoir aller travailler et les établissements scolaires vont rester ouverts.
Depuis ce matin, seuls les commerces dits essentiels sont autorisés à ouvrir. L'alimentation, les pressings ou les garages automobiles, les autres doivent baisser le rideau.
Sauf s'ils mettent en place un système de click and collect, une boutique en ligne sur laquelle les clients passent commande. Ils viennent chercher leurs produits sans entrer dans le magasin. Un système autorisé par le gouvernement, Clément Le Saffre.
Oui, et beaucoup de commerçants ont poussé un ouf de soulagement en l'apprenant. Pour les petits magasins obligés de fermer, c'est une bouée de sauvetage. Myriam Couty tient une boutique de produits bio à Blois. Elle a bricolé une solution de click and collect lors du premier confinement.
N'étant pas informaticienne, il a fallu trouver des solutions. On a pris le temps de recenser tous les produits de la boutique, d'avoir un système de bons de commande, de formulaire de commande en ligne que nos clients pouvaient prendre le temps de remplir. On a eu une grosse affluence sur le premier confinement. On a presque triplé notre chiffre d'affaires, donc ça a été quelque chose d'assez incroyable.
Tous les commerçants pourront donc mettre en place le click and collect lors de ce nouveau confinement, mais encore faut-il savoir le faire. Pour aider les commerçants, des entreprises comme Olka, fondée par Victor Gobourg, ont donc développé des solutions clés en main.
Le commerçant peut être tout à fait autonome dans la gestion de son catalogue, donc ajouter un produit, faire évoluer un prix, etc. Mais s'il n'a pas l'appétence et le temps nécessaire, eh bien il fait appel à son conseiller numérique qui, lui, a un rôle d'accompagnement, conseil, formation et de réaliser certaines modifications pour lui.
Et le nombre de clients d'Olka a doublé en quelques mois, preuve que le click and collect a pris de l'ampleur. Mais il y a de la marge. Hein. Aujourd'hui, à peine un tiers des petites et moyennes entreprises ont leur propre site internet.
Clément Le Saffre pour Europe 1.
C'est donc l'autre nouveauté de ce reconfinement. Les écoles, collèges et lycées vont rester ouverts avec un protocole sanitaire renforcé. Le masque est rendu obligatoire dès l'âge de 6 ans.
Une décision qui inquiète à la fois les enseignants et les parents. Mais Mathieu, la France n'est pas le premier pays à avoir fait ce choix. Aux États-Unis, la société de pédiatrie recommande même le port du masque à partir de 2 ans, Xavier Yvon.
Oui, des classes divisées en deux. Chaque groupe vient à l'école une moitié de la semaine seulement, avec prise de température à l'entrée et masque obligatoire. Dès 4 ans, Lucie, petite française, est en first grade, l'équivalent du CP, dans une école publique de Brooklyn.
I do need to put mask every day at school. Il faut mettre notre masque tout le temps à l'école. Je suis habituée. Si on ne va pas à l'école, on n'apprend rien. Alors, on s'en fiche et on a le masque.
Et Lucie et ses camarades gardent le masque même pendant la récré dans la cour. Le seul moment de la journée où les élèves peuvent l'enlever, c'est pour le déjeuner. Mais là aussi, les règles sont strictes, comme l'explique sa grande sœur Sacha en 5th grade, le CM2 américain.
En fait, moi, on mange dans la classe, tout seul à nos tables, pendant 20 minutes, sans porter le masque et sans parler ensemble, parce que sans le masque, le Covid peut se déplacer plus facilement.
Des mesures drastiques qui fonctionnent pour l'instant. New York, la plus grande académie du pays, n'a enregistré qu'une infime proportion de cas de Covid-19 dans ses écoles.
Xavier Yvon pour Europe 1.
Les écoles, collèges et lycées vont donc rester ouverts en France, nous vous le disions. Pour les universités, les cours se feront uniquement en ligne. Du coup, certains étudiants ont choisi de partir, mais à plusieurs, pour ne pas être isolés.
Et c'est le cas de ce groupe d'amis, 5 étudiants âgés de 25 ans. Ils viennent de passer leur première nuit dans un gîte rural de Mondreville, un village des Yvelines. Et ils n'ont pas l'air d'être partis pour travailler. Jeanne Bergaoui, reportage.
Je me suis dit, après l'expérience du premier confinement, que j'avais pas envie de rester seul et pas envie de rester à Paris, parce que c'était un peu déprimant.
Alors Romain a convaincu 4 amis de partir avec lui, et les voilà tous ensemble dans ce gîte réservé à la dernière minute.
130 mètres carrés, je crois, avec un grand jardin, une table de pique-nique et un terrain de volley.
Chacun a sa chambre, son espace pour continuer à étudier. Mais cette fois, plus de moments de solitude ou d'ennui, plus d'apéros virtuels, expliquent Quentin et Candice. L'objectif, c'est bien de pouvoir profiter ensemble.
On a pris des jeux de société, il y en a une valise entière avec des livres, des DVD, on a pris une console, on a pris de quoi être tranquille. Quoi.
Et on a la possibilité aussi de se mettre au vert.
Une colo de vacances, ouais, c'est le terme
c'est
exact.
Le but, ouais.
C'est un peu d'être insouciant, quoi. De moins subir le confinement, quoi.
Plus d'espace et de confort, mais aussi un défi, réussir à cohabiter à 5 pendant au moins 4 semaines.
Jeanne Bergaoui pour Europe 1.
Oui, c'est vrai que je vous entendais dire, ils n'ont pas l'air d'être partis pour travailler.
Ça sent plutôt la console.
Ils développent
jeu,
des jeux PlayStation, ces jeunes, je ne sais pas du tout. La France est donc confinée. Mais comme certains services publics, la justice va continuer à fonctionner.
Audiences et procédures devraient pouvoir se tenir, les procès aussi, Gladys Laffitte.
Oui, comme le procès des attentats de janvier 2015, il continuera jusqu'au verdict prévu le 13 novembre. Malgré le reconfinement, il était hors de question de le suspendre, estime Maître Pascal Edwige, avocate de la famille de Clarissa Jean-Philippe.
Nous attendons justement ce terme pour que la justice passe. Donc il ne s'agit pas de suspendre cette justice à cause de ce virus, mais justement de poursuivre ce procès jusqu'au bout. Donc pour nous, c'est une continuité dans un contexte particulier, mais une continuité toujours.
Et c'est bien l'objectif du gouvernement, que la justice fonctionne, que les audiences aient lieu au maximum, contrairement au premier confinement qui a entraîné un retard déjà conséquent, explique Éric Morel. Il est procureur de la République de Nîmes.
Nous avions gardé des plages d'audience sur le quatrième trimestre 2020 pour résorber nos stocks. Là, il est clair qu'on ne pourra pas le refaire une seconde fois. Les affaires seraient renvoyées probablement à plus d'un an.
Les tribunaux accueilleront sans doute moins de public en autorisant par exemple que les personnes convoquées sans leurs accompagnants.
Gladys Laffitte pour Europe 1.
Et puis allez, on termine avec un petit peu de culture ce matin. Un dernier bol d'air maintenant que les cinémas, les théâtres et les musées sont fermés.
Mais ça va forcément manquer à certains qui ont décidé d'en profiter jusqu'au bout. Jean-Gabriel Bourgeois s'est rendu au musée du Quai Branly à Paris.
L'envie d'un peu de magie avant d'aborder le confinement qui nous attend.
Une dernière respiration culturelle avant d'entrer en apnée. Voilà ce que sont venus chercher les visiteurs. Delphine a même quitté son travail plus tôt pour un marathon de musée.
Pompéi au Grand Palais. Je voulais aller voir Matisse à Pompidou, il n'y avait plus de place. Donc je me suis dit, allez, je vais aller voyager un peu, je vais aller au musée Branly.
Devant les statuettes Inca et les masques africains, Camille et sa fille ne perdent pas une miette.
On s'est bien régalé. C'est le moment d'en profiter ou jamais parce qu'après ça va être fermé. Donc autant être dehors, justement. En profiter. Le musée, ma chérie. Autant en profiter un peu, tant qu'on peut.
Certains, comme Miguel, auraient voulu prolonger ce moment.
C'est incroyable, quoi. Ça fait 2 heures qu'on est là, même ma petite, elle veut plus partir.
Mais l'heure de la fermeture approche.
Madame, monsieur, nous vous rappelons que le musée ferme ses portes à 19h.
Parmi les derniers visiteurs, Ellie préfère rester philosophe.
Il y a d'autres façons d'avoir accès à de la culture. Via les livres, via Internet. C'est pas parce qu'on est chez soi qu'on est complètement coupé de la culture.
Il ressort du musée avec le livre de l'exposition. Cela me fera un peu de lecture pendant le confinement, sourit-il.
Jean-Gabriel Bourgeois.
Merci beaucoup, Émilie Dez. Il est 7h12 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
C'est une voix qui compte. Je reçois Laurent Berger à 7h40 sur Europe 1. Les nouvelles annonces de Jean Castex sur le reconfinement hier soir. Il faut sauver l'économie et les Français doivent continuer à travailler. Va-t-on pouvoir fixer un cadre au télétravail? Valoriser aussi les métiers mobilisés dans un monde confiné? Est-on condamné aussi à subir des faillites en cascade dans les mois à venir? Le secrétaire général de la CFDT, invité du tête-à-tête Europe Matin, sa première prise de parole depuis la allocution du président de la République depuis le début de cet acte 2 du confinement. Et c'est sur Europe 1. Tout de suite, l'éclairage éco. Daniel Fortin.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 7h14.
Et maintenant, l'éclairage éco vous est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
L'éclairage éco, c'est avec Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos. Bonjour Daniel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le confinement a commencé officiellement à minuit, il y a 7h14 minutes et 17 secondes. Et avec lui, ce sont les déplacements qui vont se raréfier, bien sûr. Pour les opérateurs de transport, c'est l'angoisse, la fréquentation des trains ou des métros est en chute libre.
Oui, et les chiffres sont impressionnants. Malgré la reprise économique de l'été, le métro parisien, par exemple, n'a retrouvé que 60 à 70% de son trafic normal. Dans les trains régionaux, les fameux TER, il manque toujours 25% des voyageurs en moyenne. En région parisienne, le Transilien en est à 30% de clients en moins. Ça, c'était avant le reconfinement annoncé par le gouvernement, à minima jusqu'au 1er décembre. C'est dire si les chiffres vont encore plonger. Alors vous me direz, rien de plus normal puisqu'on incite les gens à rester chez eux, y compris pour travailler. Mais pourtant, la SNCF comme la RATP se demandent si le mouvement n'est pas plus profond.
Vous voulez dire que les voyageurs vont se détourner durablement des transports en commun?
Alors c'est en effet une tendance qui est désormais à l'étude chez tous les experts du transport. Ils ont même inventé un mot pour la qualifier, la démobilité. Vous en entendrez beaucoup parler dans les mois qui viennent. C'est l'idée que les citoyens ont découvert d'autres formes de déplacement comme le vélo pour les courts trajets. D'autres ont redécouvert les charmes de la voiture. Le trafic automobile avait retrouvé ces dernières semaines son niveau d'avant Covid. Et tout cela pour une raison très simple. En vélo ou en voiture, on est seul ou accompagné de personnes choisies. Moins de risques donc de se contaminer, comme c'est le cas dans les transports bondés. Et le choc psychologique créée par le coronavirus risque d'ancrer cette méfiance envers le train ou le métro pour longtemps.
Mais que doivent-ils faire alors pour convaincre les voyageurs de revenir?
Alors sur le papier c'est simple, il faut investir pour augmenter les capacités des trains ou des métros et éviter les foules des heures de pointe qui font peur aujourd'hui aux voyageurs. C'est ce qu'ont commencé à faire les transporteurs, mais qui dit moins de clients dit moins de recettes, donc ils risquent de manquer d'argent pour le faire. C'est un vrai casse-tête pour eux, mais aussi pour les régions qui financent les transports. Qui devra payer les pots cassés? C'est tout l'objet des discussions qui vont s'engager dans les prochaines semaines.
Daniel Fortin, merci beaucoup. 7h16. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour à tous.
Une question ce matin. Qu'est-ce qu'ont en commun le Pakistanais qui a attaqué l'ancien siège de Charlie Hebdo, le Tchétchène qui a décapité Samuel Paty et le Tunisien qui a assassiné trois fidèles à Nice?
Alors ils viennent d'Asie, du Caucase, du Maghreb, et en dehors du djihad, d'avoir du sang français sur les mains, ce qui les unit, eh bien, c'est d'avoir débarqué en France en visa, d'avoir réclamé l'asile, d'être trois islamistes qui prétendent fuir un pays où l'islamisme a pignon sur rue, et leur crime n'est pas la honte de leur pays natal. Bien au contraire, depuis un mois, les dirigeants du Pakistan, de Tchétchénie, de Tunisie, font la leçon aux Français en deuil et à leur président.
Au Pakistan, il faut le souligner, hein, le blasphème, c'est peine de mort.
Alors le Parlement pakistanais a voté lundi une résolution accusant Emmanuel Macron de propager la haine. Ils l'ont voté à l'unanimité, un mois pile après que Zahir Hassan Mahmoud ait saigné deux innocents à Paris. C'est une façon de lui donner raison. Le Premier ministre Imran Khan a accusé le président Macron d'avoir attaqué, d'avoir provoqué, d'avoir blessé des millions de musulmans avec son discours à la Sorbonne. C'est auprès d'Imran Khan que Zahir Mahmoud aurait dû trouver refuge. Sans doute que l'ambassade lui apporte des oranges.
Le président de la Tchétchénie a aussi attaqué Emmanuel Macron.
L'islamisme est le voile dans lequel se drape Ramzan Kadyrov pour camoufler sa république bananière. Après l'hommage national à Samuel Paty, Kadyrov a décrété qu'Emmanuel Macron était la créature la plus méprisable au monde, le terroriste numéro 1. On se dit qu'Abdoulak Abouyezidovitch, le tueur de l'enseignant, aurait dû rentrer chez lui plutôt que de vivre au crochet du trésor français qui le pensionnait comme réfugié.
La Tunisie dénonce fermement l'attentat de Nice.
Alors la Tunisie ouvre une enquête. La Tunisie doute toujours que les terroristes soient ses ressortissants. Elle rechigne à reprendre ceux qui sont refoulés à Lampedusa et c'est ainsi que le tueur a gagné Nice. Hier, le président tunisien a appelé la communauté musulmane à ne pas tolérer les campagnes de dénigrement en lien avec les caricatures du prophète. Les musulmans qui se trouvent aujourd'hui menacés sont au-dessus des accusations mensongères dont ils font l'objet. Alors, il faut apprécier chaque mot de ce prêchi-prêcha. Aujourd'hui menacés, quelques heures après que les trois catholiques aient été immolés par un de ses compatriotes.
Merci Vincent Hervouet. Il est 7h18. Vous restez bien sur Europe 1 à suivre. On va se changer les idées. Du foot, enfin, plus que du football. Du Zlatan. Petit souvenir pour les Parisiens, quand une star du foot sensibilise au port du masque, le match Zlatan contre le Covid, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Zlatan Ibrahimovic fait de la prévention contre le Covid. Le footballeur du Milan AC est la star d'un clip où il rappelle l'importance des gestes barrières. Pour vous, il faudrait toujours avoir un Zlatan dans son équipe.
Bah, quand vous avez 17 ans, que vous allez faire votre rentrée au lycée lundi dans un contexte de confinement, que vous allez retrouver vos copains, est-ce que vous allez plus écouter les médecins, les politiques ou Zlatan Ibrahimovic? Ouais, bah c'est pas très compliqué comme quiz, il y a des chances que vous prêtiez un peu plus l'oreille au conseil du footballeur. C'est sûrement dommage, mais c'est comme ça. La région Lombardie, la région de Milan, a donc fait appel à la star du Milan AC pour porter la bonne parole. Un clip où Zlatan fait ce qu'il sait faire le mieux au monde, du Zlatan Ibrahimovic.
Il virus mi ha sfidato ed io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan. Non sfidare il virus.
Voilà, le virus m'a défié, je l'ai battu, mais vous n'êtes pas Zlatan, ne défiez pas le virus. Voilà, mon jeu d'acteur est à peu près aussi bon que le sien. Respectez les règles, portez un masque, hein, il joue son rôle à fond, ça pourrait être un peu lassant, hein. Ça y est, Zlatan fait encore du Zlatan, on a compris, il ne va pas passer sa vie à s'auto-caricaturer. Bon d'accord, mais bon, là c'est pas pour tancer un arbitre, c'est pour la bonne cause. Pour une fois que l'égocentrisme sert à aider les autres, on ne va pas se plaindre. Hein.
C'est efficace, tout le monde, ou presque, a vu cette vidéo?
Si j'étais Zlatan, Zlatan Ibrahimovic. Je dirais que rien ne résiste à Zlatan. Et le pire, c'est que c'est vrai. Ce clip posté hier après-midi a déjà été vu plusieurs centaines de milliers de fois. Il faut dire qu'il marche sur l'eau en ce moment, l'attaquant du Milan AC. Il a quand même 39 ans. Il a marqué 6 buts en 3 matchs depuis le début de la saison. Alors, s'il peut profiter de son aura de dieu du stade insubmersible et de sa personnalité aussi touchante que ridicule parfois, pour être écouté, notamment des jeunes, tant mieux. Les sportifs ont aussi un rôle à jouer dans cette crise sanitaire. Ça pourrait donner quelques idées en France.
On va lancer cet appel, mais personne n'égale Zlatan.
Non, ben, pour parler à la troisième personne, c'est compliqué.
Ni même le Covid, a priori. Merci Virginie Fulpin. L'édito sport, c'est tous les matins. Il est 7h23 et nous retrouvons, comme tous les jours, Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Demain, c'est le week-end et j'espère que tout le monde trouvera le moyen de goûter un repos bien mérité. Avant de s'empresser de ne rien faire, j'aimerais revenir sur une expression feignante. Avoir un poil dans la main.
Oui, c'est avoir des facilités pour fuir l'effort avec talent.
Oui, et c'est pourtant pas votre genre. Quoi qu'il en soit, l'expression « avoir un poil dans la main » date du début du 19e siècle. Elle signifie que, ne faisant rien du tout, aucun frottement ne vient au creux de la paume de la main. Du coup, un poil a tout loisir d'y pousser, même si on sait qu'aucun poil ne peut pousser dans la paume. Enfin, on dit aussi avoir un baobab dans la main, un palmier même, voire une queue de vache. Notez que ceux qui ont un cheveu sur la langue parlent autant que ceux qui n'en ont pas. Quand on a un poil dans la main, on est un fainéant. Notez que fainéant signifie fait néant. Comprenez qu'il ne fait rien. En Angleterre, on utilise une jolie expression, to be work shy. Cela veut dire avoir une certaine timidité vis-à-vis du travail.
C'est mignon, je suis timide face au travail.
Je ne sais pas si ça peut passer avec son supérieur hiérarchique. En Grèce, on dit être le patron à l'auberge des fainéants. Et en Espagne, « ser más flojo que un muelle de guitar » traduisait « être mou comme un rideau ». L'image est bien là. Voilà, je trouve que j'ai assez travaillé comme ça pour aujourd'hui. Je vous offre une dernière citation de Jules Renard pour bien débuter votre journée de travail. « La paresse n'est rien de plus que l'habitude de se reposer avant d'être fatigué. »
Mais Stéphane, vous allez continuer à travailler 16 heures tout à l'heure, oui. Historiquement vôtre avec Mathieu Noël.
Il est l'or, Monseigneur.
De l'or, de l'or, de l'or. Oui, ça va briller dans Historiquement Vôtre aujourd'hui, avec des personnages qui ont l'or en commun. Le pharaon Toutankhamon, les 49ers, tous ces hommes qui se sont rués vers l'or dans l'Ouest américain, et Julien Doré aussi, un artiste en or qu'on adore.
Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres.
Bref. On vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël tout à l'heure, 16h-18h sur Europe 1.
A tout à l'heure Stéphane Bern.
A tout à l'heure.
Attendant la fièvre. L'enfer, c'est pas les autres. C'est ceux qui te font.
J'aime bien la nouvelle chanson de Julien Doré. Je l'ai dit au passage, pardonnez-moi Stéphane, en l'occurrence. Sur Europe 1, vous écoutez Le Monde changer avec Julien Doré, vous écoutez Le Monde a changé. C'est quand même pas très loin, hein, finalement. 7h25 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous restez bien avec nous à suivre Laurent Cabrol, la météo bien sûr, Sophie Echen pour un nouveau journal, à tout de suite. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oh là là.
Qu'est-ce qui vous arrive mon cher Laurent?
Il y a des brouillards partout, c'est incroyable, ils sont un peu comme des champignons, ils viennent d'apparaître sur nos cartes, Bergerac, Cognac, Brive, Gourdon, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, un temps de vraiment des brouillards parfois très épais, hein, 100 mètres de visibilité. Soyez vigilants, vous me direz, vous ne sortez pas beaucoup aujourd'hui, mais enfin bon, si vous avez la chance de circuler, soyez très très prudents. Voilà, ces brouillards céderont la place quand même au soleil, hein, dans peu de temps, dans 4-5, allez. 3 heures, dans 3 heures il fera beau. Il fera beau partout sur les régions du sud. Il fera un temps souvent gris sur la Normandie, la Picardie, le Nord, le Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, les Vosges, la Bourgogne, la région parisienne, où nous verrons apparaître un rayon de soleil tout de même. Et puis ça va s'arranger très 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 vite sur les pays de la Loire, la Vendée et le Berry. Bon, c'est soleil au sud, gris au nord, et demain, soleil pour tout le monde. Voilà, j'ai résumé en 3 mots. 17 à 22 degrés, température, elles sont en hausse. Hein, oui, bel et bien. 25 même anime. Top, j'ai fini.
Tout va bien, Laurent Cabrol. Respirez. Il est 7h29, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal. Il est 7h30.
La semaine prochaine, les écoles et les établissements s'organiseront afin de limiter au maximum le brassage entre les différents niveaux d'élèves.
Protocole sanitaire renforcé dans les établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation laisse une marge de manœuvre au directeur. Si les écoles et les lycées restent ouverts, les commerces non essentiels en revanche doivent refermer leurs portes. Mais les fleuristes ont un léger sursis pour la Toussaint. À la une aussi, l'attentat dans la basilique de Nice hier. 3 morts. L'État est pointé du doigt pour sa gestion de la lutte contre le terrorisme. Et puis il faudra attendre un peu pour connaître le lauréat du prix Goncourt. L'Académie reporte son attribution en soutien aux libraires contraints de fermer.
Juste après ce journal, comment organiser le travail dans cette nouvelle phase de confinement? Comment valoriser ce dont la mission est essentielle? Le sens des solidarités aussi entre générations, envers les soignants. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité du tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique de Catherine Ney, juste avant Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, Christian Estrosi, maire de Nice. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La France est remise sous cloche depuis minuit. Reconfinement généralisé pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Avec quelques différences par rapport au printemps dernier, Emmanuel Macron l'a annoncé lors de son allocution. Cette fois, les crèches, écoles, collèges et même les lycées resteront ouverts.
Le gouvernement a détaillé les nouveaux protocoles sanitaires hier. Mais finalement, il y a assez peu de changements par rapport à ce qui était déjà appliqué depuis la rentrée. Virginie Salmen.
Il est possible que presque rien ne change dans le lycée de votre fille ou de votre fils. Le ministre annonce un renforcement du nettoyage et de l'aération des salles de cours. On est déjà au maximum, répond Florence Delannoy du SNPDEN, proviseur à Lille.
Pour faire plus, il faut multiplier le nombre d'agents. Des agents sont mobilisés en plus pour la restauration, donc on manque cruellement d'agents pour nettoyer. Le seul moyen pour désinfecter régulièrement les salles de classe, ce serait de mettre élèves, professeurs et personnel, chacun responsable de sa salle. Mais je ne sais pas si on peut en arriver là.
Et les proviseurs attendent des précisions, y compris pour réussir à respecter 1 mètre de distance à la cantine. Pour ce qui est de limiter le brassage des élèves, que les profs changent de classe à chaque heure plutôt que les élèves. C'est impossible si on connaît les lycées, rétorquent les chefs d'établissement. On n'a pas une salle par prof, ni même par classe. Pour remédier à cela, ils pourront décider de passer quelques cours en distanciel, mais probablement pas dès la semaine prochaine. À l'école primaire, la représentante des instituts du SNUIPP, Guylaine David, affirme « La seule mesure qui va changer pour nous, c'est le masque à partir du CP. »
Virginie Salmen.
Pour les salariés, le télétravail n'est pas une option, a dit hier Elisabeth Borne. Il doit être généralisé. En revanche, c'est un coup d'arrêt pour les bars, restaurants et commerces non essentiels, une nouvelle fois contraints de fermer.
Exception faite pour les fleuristes autorisés à rester ouverts pour ce week-end de la Toussaint. Un petit sursis, mais c'est un soulagement. Le reportage d'Arthur Mbaché dans les allées du cimetière de Strasbourg.
Vous voyez là les couleurs, là, c'est magnifique ça.
Elles sont emmitouflées derrière leur rangée de chrysanthèmes, les deux, Janine et Ornella, et elles ont le sourire, ça se voit malgré le masque.
On était très rassurés du coup parce qu'on pensait vraiment qu'on allait devoir fermer à partir d'aujourd'hui. Et ça nous a bien soulagés de savoir qu'on avait une dérogation pour pouvoir rester ouvert jusqu'à dimanche, sinon ça aurait été un peu compliqué quoi.
Heureusement qu'on a ce sursis parce que vous vous rendez compte, on aurait tout dû mettre à la poubelle.
Pour votre activité à vous, la Toussaint ça représente quoi?
40%.
En face il y a le pavillon des fleurs, la boutique de Patrick.
Les attentes des clients au mois de décembre ne seront pas du tout les mêmes que maintenant. Donc il était important pour nous d'écouler cette marchandise maintenant.
L'aspect négatif, c'est que quand même, après la Toussaint, il va falloir fermer.
On se contente bien d'une ouverture jusqu'au 1er au soir, vu le contexte actuel.
Les tricolores,
oui, celui-là, s'il vous plaît. Oui.
Reste une incertitude, les gens qui viennent d'un peu loin, Mulhouse, Colmar, viendront-ils ce week-end fleurir les tombes de leurs proches? Strasbourg, Arthur Nbaché, Europe 1.
7h33 sur Europe 1, l'autre actualité de ce jour, c'est bien sûr cette attaque terroriste dans l'église Notre-Dame de l'Assomption à Nice hier. 3 morts, dont 2 égorgés à l'intérieur de l'édifice.
C'est le 3e attentat en l'espace d'un mois en France. Cette fois, l'assaillant est un jeune migrant tunisien de 21 ans qui venait d'arriver sur le sol français après un passage sur l'île italienne de Lampedusa.
Du coup, dans la lutte contre l'islamisme radical et le terrorisme, une partie de l'opposition monte au créneau.
Il est temps maintenant que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire. Ça, ce sont les mots du maire de Nice, Christian Estrosi. Quelques minutes après l'attaque, il sera à l'invité politique de Sonia Mabrouk à 8h15. Marine Le Pen, de son côté, réclame une législation de guerre pour combattre les soldats de l'islamisme.
Pour le chef de file des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, cette attaque démontre une nouvelle fois les ravages du désordre migratoire.
Le tueur de Villeurbanne était afghan. L'homme au hachoir qui a attaqué 2 journalistes devant les anciens locaux de Charlie Hebdo était un faux mineur pakistanais. Celui qui a décapité Samuel Paty était aussi un tchétchène. Et là, on nous décrit l'assaillant à Nice comme un Tunisien qui était passé par Lampedusa. Donc il y a un lien entre une immigration qu'on ne maîtrise plus en France et l'islamisation. Est-ce que le gouvernement, oui ou non, veut lutter contre ce désordre migratoire? Il ne mettra pas fin aux attentats s'il ne met pas fin à ce désordre migratoire.
Le sénateur républicain Bruno Retailleau au micro européen de Claudia Bertram. Arrivé sur place après l'attaque hier, Emmanuel Macron a annoncé l'état d'urgence sanitaire pour le pays. Un conseil de défense est prévu en fin de matinée.
Et puis il devait être décerné le 10 novembre prochain. Le prix Goncourt est reporté.
Et ce n'est pas le premier prix littéraire à connaître un tel sort. Une décision par solidarité avec les librairies obligées de fermer à cause du confinement. Nicolas Caro.
Les prix littéraires marchent avec les librairies. Si les libraires ferment, les prix littéraires ferment aussi. C'est en substance ce qu'a expliqué l'Académie Goncourt dans son communiqué. Hors de question de favoriser les plateformes de vente en ligne aux dépens des libraires qui réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires en novembre, entre l'annonce des lauréats et Noël. Idem pour l'Interallié ou le Grand Prix du roman de l'Académie française, solidaire aussi. Il devait dévoiler le nom du lauréat hier, l'annonce a finalement été reportée. Dans les deux cas, aucune précision sur la date. Elle sera fixée en fonction de l'évolution de la situation, en clair quand les librairies auront rouvert. En revanche, le prix Médicis et le prix Femina maintiennent leur remise de prix en comptant sur le click and collect, la possibilité de commander à distance et de venir chercher son livre dans les librairies.
Et puis le foot, deuxième journée de Ligue Europa hier, victoire de Nice contre les Israéliens de Beersheba 1-0. Lille concède le nul face au Celtic de Glasgow de partout.
Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30. Restez avec nous Sophie, le jour se lève, je le vois là au loin à la fenêtre, le jour se lève sur cet acte 2 du confinement et on va voir ce qu'il en est en réalité. Pierre Herbulot, vous êtes en ce moment même en direct de la Porte Maillot à l'ouest de Paris, entre le RER et le périphérique, c'est ça ?
Oui, absolument Mathieu. Et écoutez, si je sortais ce matin d'une période de 2 semaines d'hibernation, eh bien je ne pourrais pas deviner qu'on est en période de confinement. On ne ressent pas vraiment en fait cette sensation de vide quasi désertique de la première fois. Paris ce matin n'est pas une ville fantôme. Il y a du monde sur le quai du RERC, dans les rames de la ligne 1 du métro. Peut-être quand même un peu moins que d'habitude, me racontait un agent de sécurité qui ne peut pas faire de télétravail, mais quand même. Pareil pour le périphérique qu'on a emprunté avec Jérôme Florentville sur la moto Europe 1. C'est fluide, hein, mais en termes de fréquentation, on se rapproche plus d'un peloton du Tour de France que d'un circuit de Formule 1. Habituellement, à cette heure-ci, on avoisine les 100 km de bouchons. Là, il n'y en a que ou quand même 50. C'est vous qui choisissez si c'est beaucoup ou pas pour un premier jour de confinement national.
Merci beaucoup. Pierre Herbulot sur la moto Europe 1 de Jérôme Florentville. Il est 7h37. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Christian Estrosi, le maire de Nice, est l'invité politique d'Europe Matin. Une ville meurtrie après la terrible attaque qui a fait 3 morts à la cathédrale Notre-Dame de Nice. Il demande à ce que l'on s'exonère des lois de la paix pour lutter contre l'islamofascisme. Je le cite. Le maire de Nice répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Mais tout de suite, malgré les précisions de Jean Castex hier soir, il reste des questions. L'économie ne s'arrêtera pas cette fois-ci. Mais dans quelles conditions? Pour vous qui nous écoutez, bien sûr. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, c'est le premier syndicat de France et c'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin dans une minute. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h39. Un pays mobilisé. L'appel du président de la République à la responsabilité. Un pays engagé contre le virus, à l'hôpital, pour la survie des entreprises aussi. Contexte inédit, quoique, c'est l'acte 2 du confinement. Mon invité, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Avant de parler de cet acte 2 du confinement, je le disais, et notamment du télétravail avec vous, quand on regarde ce qui s'est passé à Nice, particulièrement hier, 3 morts, cet attentat, quelle est votre crainte ? Celui de l'attentat ou celui de la division, des divisions de nos sociétés, Laurent Berger ?
Après l'attentat d'hier à Nice, terrible, dans un lieu de culte, après l'attentat dont a été victime un professeur, M. Paty, terrible, dans une institution de la République, bien sûr qu'il y a des craintes. Il y a énormément de craintes que ce style d'attentat se perpétue, que l'intégrisme islamiste radical continue ce type d'action. Et de l'autre côté, beaucoup de craintes aussi sur la division de la société, sur une espèce d'accélération de réactions en chaîne qui, finalement, nous ferait accepter qu'il faudrait se dépasser l'état de droit, le mettre de côté pour essayer de rentrer dans une course de division et de lutte contre cet intégrisme. Il va falloir garder son sang-froid. Il va falloir garder son sang-froid. Garder son sang-froid, c'est condamner sans ambiguïté l'intégrisme islamiste radical, sans ambiguïté. Et de l'autre côté, ne pas tomber dans les espèces d'amalgames ou de confusion des sujets. Et donc, pour ça, on a la chance d'être dans un état de droit qui fixe des règles, qui a des filets de sécurité. J'ai entendu un sénateur dire « on ne va pas se laisser embêter par un conseil constitutionnel ». Ben si, ils sont là pour ça. J'en entends d'autres qui disent « peu importe l'état de droit, maintenant c'est la bataille qu'il faut mener ». Non, gardons notre sang-froid. Et garder ce sang-froid, c'est avoir une volonté d'unité.
C'est ce qui nous distingue.
Bien sûr, c'est ce qui nous distingue de ces barbares. C'est qu'on a des règles, c'est qu'on s'applique des règles collectives. C'est qu'on a des filets de sécurité démocratiques. Ça veut dire qu'il faut être sans ambiguïté sur cette condamnation et sans ambiguïté sur la volonté de le combattre. Et donc, il faut aussi se protéger. Mais il faut, je crois, avoir en tête qu'on garantisse l'unité de notre pays et ses valeurs démocratiques.
Et j'en terminerai par là sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, on quitte presque le terrorisme. J'entends dans ce que vous dites la crainte de fracture d'une manière générale, au-delà de cette question de l'islamisme radical, d'une société peut-être un peu ou beaucoup divisée.
Oui, on est dans une société très divisée, où les inégalités, les ressentis, les ressentiments parfois sont extrêmement puissants. Et en fait, avec une société où on essaye de disqualifier son interlocuteur. On essaye d'avoir raison. C'est une accélération des temps liés aux réseaux sociaux et autres. Enfin, moi, je suis assez inquiet de notre incapacité à poser les vrais débats et à accepter la complexité de ces débats. Moi, je ne veux pas choisir un camp sur certains sujets. Je ne veux pas être taxé non plus de mou. Il faut être radical dans la façon de poser ses positions. C'est-à-dire il faut avoir des convictions, mais on a le droit d'écouter les interrogations de l'autre et d'essayer d'entrer dans la discussion. Et donc, je ne serais ni dans la complaisance, par exemple, sur le sujet précédent à l'égard, ni dans une espèce de compréhension malsaine à l'égard de l'islamisme radical, ni dans la confusion dans laquelle certains nous entraînent entre cet intégrisme, cet islamisme radical et nos concitoyens de confession musulmane qui eux-mêmes condamnent largement. Donc il va falloir se poser, avoir un peu de nuance. Albert Camus disait que c'était le signe de l'intelligence. Je crois que il faut vraiment aller là-dessus.
Alors avec vous, Laurent Berger, on va essayer de garder la tête froide ce matin. Nous voilà donc arrivés dans une nouvelle phase de confinement, deuxième vague. Et je répète cette question à l'envi. Qu'a-t-on appris du printemps ? Laurent Berger, après le télétravail massif, mais bien souvent improvisé au mois de mars, est-ce qu'on est prêt à le redéployer comme le demande Elisabeth Borne ? Il doit être généralisé.
Bah, pour une raison sanitaire, il faut qu'un maximum de gens puissent télétravailler, mais il va falloir intégrer que pour certains, ça ne s'est pas bien passé. Donc il faut l'encadrer. Ça veut dire quoi l'encadrer ? Il faut avoir les conditions matérielles pour le faire, les conditions d'équipement informatique par exemple. Il va falloir tenir compte aussi des fragilités de tel ou tel salarié qui ne peut pas, pour des raisons psychologiques parfois, travailler chez lui. Donc moi je souhaite que, bien sûr, le message soit au maximum le télétravail, mais que par accord d'entreprise...
Mais vous le réclamez, je me permets, entre les deux vagues, vous avez passé votre temps à réclamer justement qu'on fixe un cadre,
oui,
qu'on discute, qu'on se prépare.
Oui, parce qu'avouez que quand même en mars-avril, ça s'est fait à l'arrache. Des gens l'ont très bien vécu, ça s'est très bien passé, et d'autres l'ont vécu de façon extrêmement douloureuse. Et donc ça veut dire qu'il faut encadrer, il faut avoir y compris... Dans l'encadrement, c'est quoi ? C'est les conditions matérielles, mais c'est aussi s'interroger sur les façons de manager à distance. Comment on fait ? C'est pas pareil de manager en présentiel que de manager à distance. Comment on fait pour le faire ? Comment on développe de l'empathie à l'égard de ses collaborateurs, mais aussi de ses collègues, dans un moment où on ne se voit pas ? Donc tout ça, ça mérite que dans les entreprises, avec le comité social et économique, on prenne le temps de se poser un peu. Ça ne veut pas dire que le télétravail n'a pas commencé, mais qu'on continue de discuter. Et puis, il y a une négociation interprofessionnelle nationale sur le télétravail qui s'ouvre la semaine prochaine. La CFDT demande qu'on ouvre cette négociation et qu'on se quitte quand on a bouclé cette négociation. On ne va pas prendre un mois et demi ou deux mois dans cette période de télétravail massif pour se mettre d'accord au niveau national entre les partenaires sociaux.
Une guerre menée par des civils, me disait hier Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. Ces civils, ce sont des personnels soignants déjà. Certains ont renoncé à des vacances, d'autres sont exsangues et voient arriver cette vague que l'on dit plus forte, plus meurtrière que la première.
Moi, j'ai discuté avec les représentants des soignants hier. Ils sont à la fois ultra mobilisés. Franchement, ils sont étonnants de conscience professionnelle, mais ils sont déjà fatigués.
Déjà.
Donc, il faut qu'on soit extrêmement rigoureux tous sur ces gestes barrières, sur ce confinement, parce que ce sera la meilleure manière de les soigner. Et... Le deuxième élément, ce n'est pas les seuls qui seront en première ligne, il y en a d'autres. Qui vont être en deuxième ligne. Ceux-là, on ne les a pas reconnus depuis mars-avril. Ce sont tous ces travailleurs des activités essentielles, notamment de l'alimentation, de l'agroalimentaire, du déchet, etc. Là, maintenant, il faut un geste très très fort à leur égard.
Salarial.
Très vite. Oui, bien sûr.
Salarial. Il faut un geste salarial. Laurent Berger, en même temps, on ne parle même plus de compétitivité, de développement des entreprises. Là, on parle de survie des entreprises. On peut imaginer ce geste salarial ?
On parle de survie des entreprises, on parle d'investissement, de surinvestissement de professionnels et de salariés, et qu'ils font dans un contexte de risque accru. Je crois qu'il faut une reconnaissance de ces travailleurs de deuxième ligne beaucoup plus forte que ce qui s'est passé, puisque finalement, il ne s'est quasiment rien passé depuis mars-avril. Et puis, il va falloir aussi protéger... On n'est pas dans le même contexte, hein, il faut bien le comprendre.
On a échoué, pardonnez-moi, sur la reconnaissance de ceux qui étaient ces deuxièmes lignes dont vous parlez. Après le confinement, après le premier confinement.
On a joué, vous voulez dire ?
On a échoué.
On a échoué. Ah, bien sûr, on a échoué. On a échoué, il ne s'est rien passé. Donc, il ne faut pas échouer une deuxième fois, il faut le faire très vite. Vous savez, on n'est pas dans la même situation. On n'est pas dans la même situation parce que ce confinement-là, même s'il est différent, il ne se passe pas sur un terrain économique plus sain. Il est déjà très détérioré, la situation économique. Il ne se passe pas sur une situation sociale saine. Il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de suppression d'emplois, il y a beaucoup de PSE. C'est ma préoccupation de cette période.
Quelles sont les remontées que vous avez du terrain d'ailleurs là-dessus ? Le chômage, c'est une fatalité ?
Non, ce n'est pas une fatalité. Ça ne doit pas être une fatalité. Il faut continuer les dispositifs de maintien dans l'emploi. Mais c'est effectivement plus difficile dans cette période que ça ne l'a été en mars-avril, parce que la situation économique est évidemment beaucoup plus détériorée. La situation du chômage l'est aussi. Donc on a des PSE, malheureusement, qui se multiplient dans les secteurs qui sont quasiment à l'arrêt. On parle de l'aéronautique, mais la restauration collective en est un autre, l'événementiel, etc. Donc il va falloir, là aussi, garder la tête froide, pour reprendre votre expression tout à l'heure, c'est-à-dire de regarder les problèmes, de continuer de créer des protections pour les entreprises, d'accompagner les entreprises. Enfin, on n'a aucun intérêt à ce que les entreprises se cassent la figure les unes après les autres, mais aussi accompagner les salariés et notamment ceux qui ont un peu les invisibles, ceux qui ne sont pas souvent les mieux couverts par la protection sociale. Donc il va falloir regarder comment, pour chaque catégorie de salariés, on met cette protection sociale qui assure un minimum de revenus dans cette période. Et puis, il faut aussi continuer à penser la reprise, d'une certaine manière, la relance. Ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais surtout, il ne faut pas penser simplement à court terme, dans les 15 jours et 3 semaines. Sur la question sanitaire, il faut le faire comme ça, mais sur la question sociale et économique, il faut penser l'avenir. Et c'est un peu difficile parce qu'on sait qu'on rentre dans une période très perturbée.
Il y a deux crises, hein, économique et sanitaire. Et dans les deux cas, ce sont les plus précaires qui sont le plus touchés.
Toujours, Laurent Berger. Toujours, on le sait, la pauvreté a augmenté. Les réponses ne sont pas à la hauteur. On a redemandé, moi j'ai redemandé mardi soir au Premier ministre, que par exemple pour les jeunes qui n'ont pas de revenus de moins de 25 ans, qui n'ont pas de revenus de subsistance, qui n'ont pas le droit au RSA, on instaure un revenu pour eux. On ne les laisse pas dans la situation de pauvreté. On sait aussi que le confinement, par exemple le reconfinement, ça va de nouveau poser la question des sans-domicile fixe. On fait quoi ? Est-ce qu'on est capable de refaire ce qu'on a fait au prix d'une grosse énergie en mars-avril, de leur retrouver une solution, et cette fois-ci pérenne. Donc on a de multiples défis. Si on n'a pas toujours en tête les plus fragiles, les plus précaires, ceux qui sont le plus exposés, on va creuser les inégalités encore, et on creusera les difficultés démocratiques dont on parlait tout à l'heure.
Vous restez à Paris, Laurent Berger ?
Oui, je reste à Paris. Ouais, je crois qu'il vaut mieux être là pour l'instant.
Merci beaucoup, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. En direct ce matin, la tête froide sur plusieurs sujets. Hein, c'est ce que je retiendrai ce matin. Merci, Laurent Berger. Il est 7h50 à suivre l'édito politique. Catherine Ney, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1.
Tout de suite, retrouvez l'édito politique avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
L'édito politique avec Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le plan de reconfinement du gouvernement n'a pas été approuvé hier soir par les sénateurs. Le matin même, l'Assemblée nationale l'avait en revanche entériné. Ainsi, selon vous, cette union nationale souhaitée par Emmanuel Macron est une chimère. À la manœuvre hier, Jean Castex.
Oui, rien n'obligeait l'exécutif à organiser un débat suivi d'un vote. En plus, hier était une journée si particulière. Après l'attentat de Nice, tout le monde était groggy. Cet enchaînement de crises prenait des airs de malédiction, ce qui ne favorise pas le consensus. Et puis, Jean Castex, qui appelait les députés à faire corps derrière le gouvernement, a mis la charrue avant les bœufs, puisqu'en ne leur livrant, à l'exception du masque à l'école des 6 ans, aucune précision sur les modalités du reconfinement. Et pour le service après-vente, il a fallu attendre 18h30 et sa conférence de presse où il a entonné la longue litanie des restrictions.
Vous avez noté quelques incohérences ?
Oui, par exemple, il sera interdit d'aller au-delà d'un kilomètre de chez soi pour prendre l'air, dit Jean Castex. Très bien, mais en même temps, on laisse ouvert les parcs et les forêts. Alors comment on fait pour y aller ? Puisque pour la grande majorité, c'est à plus d'un kilomètre.
Oui, pour beaucoup, c'est à plus d'un kilomètre. Ouais, on va en parler avec Fanny Agostini à 8h30 tout à l'heure. L'essentiel, Catherine, c'était que le gouvernement va aider les Français. Bercy ouvre encore plus les vannes.
Oui, et se voulant rassurant, le Premier ministre a peut-être vendu la mèche en annonçant une enveloppe supplémentaire de 20 milliards qui correspond en fait à 2 mois de confinement. C'est bien la preuve, peut-être, ou qu'il sait ou redoute, voilà, que Noël pourrait être impacté. Et voilà pourquoi il joue au Père Noël.
C'est Bruno Le Maire qui a donné tous les détails de ces aides.
Oui, aux 200 000 commerces qui restent seront fermés, aux entreprises, aux hôtels, aux artisans, aux précaires. Le ministre a aussi demandé leur soutien à Christine Lagarde, la patronne de la Banque Centrale Européenne, à la commissaire européenne à la concurrence, à son homologue allemand et même américain, où il se bat comme un diable et assure l'économie française a des capacités de rebond extraordinaires, elle est puissante. Nous surmonterons l'épreuve, dit-il en conclusion, mais il sait que beaucoup d'entreprises n'y survivront pas. Mais voilà. Quand on est le patron de Bercy, l'optimisme est une ardente obligation.
Condamné à être optimiste. Merci Catherine Ney, l'édito politique, il est 7h54.
C'était l'édito politique avec Chronopost. Chronopost, le partenaire des PME françaises à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Et tous les matins avant 8h, Nicolas Canteloup vient coacher, conseiller à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Christian Estrosi, le maire de Nice. Et Éric Ciotti voulait lui donner un petit conseil, tiens.
Oui, bonjour monsieur Béliard, madame Ney, monsieur Cabrol. Et un bonjour confraternel, une fois n'est pas coutume, à Christian Estrosi. Christian Estrosi, oui Christian. Habituellement, il le sait, je ne l'aime pas. Mais ce matin, cher Christian, mettons de côté nos divisions. Soyons unis tous face à la barbarie. Voyez, il se passe quelque chose là. Je dépasse mes clivages avec Christian Estrosi, que je considère, vous le savez, pourtant habituellement comme un individu relativement concomitant. Vous savez, non, mais c'est pas rien ce qui se passe. Vous savez, Éric Ciotti qui tend la main à Christian Estrosi, il faut voir ce que ça représente. C'est comme si un supporter du Paris Saint-Germain tendait la main à un supporter de l'Olympique de Marseille. Hein. C'est comme si Nicolas Sarkozy tendait la main à un juge gauchiste. C'est comme si François Hollande tendait la main à un prof de fitness.
Oh. Hein.
C'est comme si Donald Trump tendait la main à Rokhaya Diallo. Alors, non, faites, de grâce, la même chose chacun. Quand je vois ces Arabes magnifiques qui ont inventé les mathématiques et ces islamistes qui ne retiennent que la division.
Oh, oh. Ah oui, eh oui, mais il fallait laisser un blanc derrière. Il fallait. C'est signé Nicolas Canteloup et c'est très joli. Qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours avant 8h. Ce matin, vous l'avez entendu, Christian Estrosi, le maire de Nice, invité d'Europe Matin au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Merci Nicolas, merci beaucoup. Et à tout à l'heure, 8h45 pour la revue de presque. 7h59, Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo, Laurent.
Et la météo ouvre sa fenêtre aussi, sa fenêtre printanière, mais elle va vite la refermer. Je le dis tout de suite à nos amis, à partir de mardi, ben, nous retrouverons un temps moins ensoleillé, moins doux, plus ce que nous avons connu jusqu'à présent. Bon, bref. Alors là, aujourd'hui, le soleil revient. Il revient en force par les régions du sud et par l'est. Nous aurons du soleil en Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Massif central, tout le sud-ouest, tout le bassin méditerranéen. Et ce soleil va gagner, va pousser vers les pays de la Loire, la Vendée et le Berry. Il ne subsistera encore que quelques nuages, mais des nuages quand même, sur la Normandie, le Nord, la région parisienne, les Vosges, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Donc, des températures qui sont presque printanières, puisque nous aurons une valeur de 17 à 21 degrés en général et même 25 à Nîmes. De quoi va-t-on se plaindre ? On se plaint de rien aujourd'hui, sauf que on est enfermé. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1 et nous sommes avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Écoutez le monde changer. Il est 8h.
Le risque de la division des communautés, je ne le souhaite pas, mais je comprends la colère des chrétiens.
Nice se réveille en colère ce matin, y compris cette femme musulmane. Nous serons sur place dès le début du journal. Après l'émotion, c'est aujourd'hui l'exaspération. Le débat monte dans la classe politique. L'opposition fustige la politique migratoire. L'assaillant tunisien migrant clandestin était arrivé en Europe il y a à peine un mois. Nous ferons le point sur l'enquête. Un témoignage dans ce journal, celui de Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel, bouleversée face à la remontée du souvenir de la mort de son frère en 2016. À la une également, la France reconfinée depuis minuit. Défi du gouvernement, trouver plus de 4000 places en réanimation en deux semaines pour éviter la saturation. Comment faire? On vous explique. Et puis bienvenue à Retraité Land. On vous amène en Floride, dans la plus grande communauté de retraités du monde, des seniors plutôt pro-Trump d'ordinaire. Mais leur confiance en le président sortant semble s'effriter.
À nouveau, la France frappée par des attentats. La ville de Nice meurtrie, à nouveau. Et la colère politique qui s'exprime fort. Il faut s'exonérer des lois de la paix, dit Christian Estrosi. Le maire de Nice répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un bégaiement macabre de l'histoire. Trois fois, en à peine un peu plus d'un mois, le terrorisme islamiste a frappé la France. Et cette fois, l'émotion cède la place à la colère. Nice se réveille, touchée une nouvelle fois par le terrorisme. Trois victimes hier à la basilique Notre-Dame de l'Assomption, quatre ans après l'attaque sur la promenade des Anglais.
Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Vous êtes à Nice, Frédéric Michel, tout près de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, oui. Oui, il y a eu recueillement hier dans plusieurs quartiers de la ville. Mais ce que vous ressentez surtout sur place ce matin, c'est l'exaspération des habitants.
Effectivement, Nice, ville martyre, comme le titre à la une Nice Matin. Les Niçois, déjà meurtris, vous l'avez dit, par le 14 juillet 2016, ont donc vécu une nouvelle journée éprouvante. L'ambiance était lourde dans les rues hier et cela risque de durer. Les sentiments sont mêlés au choc et à la peur. S'ajoute la colère. Sephora est une fidèle de la paroisse attaquée. Elle connaissait bien le sacristain assassiné.
C'est bien de mettre les bougies, de sortir les fleurs, de dire il ne faut pas faire l'amalgame. En attendant, nous mourons. Et nous, les chrétiens, on est persécutés. C'est ça, en fait. Je suis en colère. Je suis en colère. On devient une minorité. C'est à nous de nous cacher. Non, c'est pas à nous de nous cacher. Non, ça doit cesser, ça.
Devant le cordon de sécurité établi à quelques centaines de mètres de la basilique, Sandrine, une jeune niçoise, est venue avec un groupe d'amis.
Il y a eu des gens qui ont donné leur avis. C'est bien parce qu'on peut parler, mais des fois ça va un peu trop loin. Du coup, la colère entraîne la colère, qui entraîne la colère, et qu'est-ce qui va être après? Qu'est-ce qui va se passer?
Pour cette mère de famille musulmane, la crainte, c'est l'escalade.
Le risque de la division des communautés, je ne le souhaite pas, mais je comprends la colère des chrétiens. Ils pensent que ce sont les musulmans alors que ce ne sont pas les musulmans qui font ça.
Dans la soirée, 200 identitaires niçois ont défilé jusqu'à Notre-Dame de l'Assomption. Ils ont déposé une gerbe de fleurs et entonné une Marseillaise. Et ce matin, dans toute la ville, les drapeaux sont en berne.
Frédéric Michel, en direct de Nice pour Europe 1, au lendemain de cet attentat. On en sait plus ce matin sur l'assaillant Guillaume Bier. Vous nous avez rejoint. Cet homme, c'est surprenant, il avait intégré l'espace européen tout récemment.
Oui, les enquêteurs savent que ce Tunisien de 21 ans est arrivé en Italie dans le flux des migrants par l'île de Lampedusa où il a débarqué le 20 septembre. Un clandestin interdit de territoire par les Italiens, mais laissé libre. Il est donc arrivé en France il y a quelques jours à peine, inconnu des services de police. Grâce aux enregistrements vidéo d'hier matin, les enquêteurs savent qu'il a retourné ses vêtements en gare de Nice, comportement typique des djihadistes avant d'agir. Les images le montrent sur son trajet jusqu'à la basilique où deux téléphones portables ont été retrouvés. Ils sont analysé pour y déceler des indices, des contacts. L'une des questions, c'est de savoir si ce terroriste a quitté la Tunisie dans le but de commettre cette attaque, puisqu'il est parti trois semaines après la republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo.
Précision, signé Guillaume Bier pour Europe 1. Je précise que l'assaillant touché par les balles des forces de l'ordre est toujours hospitalisé, selon les dernières informations, pronostic vital engagé.
C'est une nouvelle vague d'émotions partout en France et peut-être plus encore qu'ailleurs. À Saint-Étienne-du-Rouvray, terre du père Hamel, égorgé en 2016, en plein office dans son église.
Et ce matin, nous voulions vous faire entendre le témoignage de Roselyne Hamel, la sœur du prêtre assassiné. Elle a aujourd'hui 79 ans. Elle vit l'attaque d'hier comme un écho très douloureux à la mort de son frère.
Ça a ravivé très violemment notre douleur, notre peine, qui n'a cessé d'être depuis 4 ans. Cette injustice qui nous est arrivée... un beau jour ensoleillé du mois de juillet. On souffre avec les personnes qui ont subi récemment ces attentats.
On entend dans votre voix, vous semblez presque résigné.
Ah oui, c'est un sentiment de retour en arrière et encore. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Non, on n'a pas avancé, ça c'est certain. On n'a pas avancé. Je ne doute pas que les choses sont mises en place, mais ça se met en place à retardement à chaque fois. Et c'est là où le bât blesse et que il faut absolument se redresser avec vigueur et sans colère ni haine, mais agir intelligemment.
Et aujourd'hui, quand vous allez à l'église, comment vous vous sentez ?
Sur le chemin, on pense toujours que l'inévitable peut arriver. Le terroriste, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, que ce soit moi, ma famille, la famille du Père Amel ou d'autres gens qui se rendent à l'église.
Vous avez peur ?
Oui. C'est pour nous faire comprendre que notre religion est méprisée. On est en droit d'avoir peur.
Le témoignage de Roselyne Hamel, 79 ans. Sur Europe 1, la sœur du père Jacques Hamel, assassiné en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray, les souvenirs douloureux qu'a fait remonter l'attentat de Nice. Elle se confiait à Romain Oquet.
Et après cet attentat, le gouvernement hausse le plan Vigipirate à son seuil le plus élevé. Un conseil de défense doit se tenir aujourd'hui.
8h06 sur Europe 1. Depuis minuit, la France est donc reconfinée. Et sur le front de l'épidémie, plus de 3100 malades en réanimation, 4 fois plus qu'à la mi-mars dernier. D'ici 2 semaines, ils seront 9000.
Il faut donc vite porter les capacités des services d'urgence de 5800 à 10 000 places, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron avant-hier. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Alors concrètement, comment on les trouve ces places ?
Alors d'abord, les hôpitaux vont rouvrir tous les lits fermés par manque de personnel. Il y en aurait environ 400 dans tout le pays, en déprogrammant les opérations non urgentes, ce qui a déjà commencé dans presque toutes les régions. Ça permettra de repositionner des infirmiers qui travaillent normalement dans les salles d'opération ou de réveil, dans les services de réanimation. Ensuite, il faudra pousser les murs, transformer un service de pédiatrie ou de chirurgie par exemple, en réanimation. On rappellera aussi la réserve sanitaire, les médecins à la retraite, les étudiants en médecine. Mais avec cette saturation du système hospitalier qui arrive, une perspective hante déjà de nombreux médecins comme Jean-Michel Constantin, chef du service de réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Le risque, c'est qu'on soit amené à être obligé de choisir les patients qui pourront bénéficier de la réanimation. Malheureusement, vu la dynamique de l'épidémie, pour les 2-3 semaines qui viennent, c'est-à-dire avant qu'on ait l'effet bénéfique du confinement, j'ai peur qu'on soit obligé à un moment de faire des choix qui poseront des problèmes sur le plan éthique, sur le plan sociétal et sur le plan humain.
Enfin, en ultime recours, l'armée pourrait prêter main forte aux hôpitaux, comme lors de la première vague des hôpitaux de campagne, comme celui qui avait été installé à Mulhouse, pourrait voir le jour très vite. Chaque ville dispose d'un plan pour monter ses structures temporaires. À Marseille, ça pourrait être par exemple dans le stade Vélodrome ou dans des ferries restées à quai et transformées en hôpitaux flottants.
Pardonnez-moi Victor, je me permets de vous couper. Ce qu'on vient d'entendre, ce médecin qu'on vient d'entendre, on a déjà entendu ça ?
Non,
on se perd un peu dans les témoignages autour de cette crise depuis le mois de mars.
Pas
on n'a jamais entendu ça encore.
Il dit que c'est effectivement pour la première fois qu'ils vont devoir choisir.
Les précisions signées Victor Dolande. Faut-il le voir comme une volonté de passer en force le confinement ? Europe 1 vous révèle ce matin que les magasins Fnac Darty seront ouverts aujourd'hui. Aujourd'hui, partout en France, le groupe en a le droit selon une note interne de la direction que nous avons pu consulter. Parce que le groupe vend notamment du matériel informatique, des téléphones, tout ce qu'il faut pour télétravailler.
Oui, mais voilà qui ne va pas plaire aux libraires. Parce que Fnac Darty vend aussi des livres. Mais les librairies, elles, doivent fermer. Alors, pour limiter la casse, les autorités ont autorisé le click and collect, la vente directe après réservation sur Internet.
Pas sûr que cela suffise à sauver la filière, comme l'a constaté hier Lionel Gougelot dans le Nord, au milieu des derniers clients avides de lecture avant le confinement.
C'est le rush des derniers clients avant confinement. La librairie La Forge de Marc-en-Barœul, Gwenaël Bell, la responsable, espère que le click and collect, la vente de livres après réservation sur Internet, lui permettra de limiter la casse.
C'est absolument nécessaire à notre survie, non seulement en termes de vente, mais surtout en termes de présence sur le territoire auprès de nos clients. Il ne faut pas que nos clients nous oublient. D'ailleurs, on est aussi capable de faire du conseil par mail, par téléphone, ce qui peut permettre d'avoir le bon livre pour la bonne personne, en plus du click and collect.
À la grande librairie du Ferry du Nord, grâce à une adolescence adolescente profite d'une dernière flânerie au rayon des livres jeunesse.
On peut toujours commander par internet, mais c'est pas non plus pareil de pouvoir regarder dans les rayons, regarder tel livre qui m'intéresse, trouver peut-être un truc qu'on n'avait pas vu mais qui paraît bien.
Alors Pierre Courcière, le PDG du Furet du Nord, alerte le gouvernement, les librairies devront rapidement rouvrir pour les fêtes de fin d'année.
La période de fête d'année est fondamentale. Si on devait ne pas réouvrir rapidement, vous avez 3000 libraires indépendants en France, plus nous et quelques autres, mais qui seront extrêmement fragilisés. Et ils le sont déjà par rapport à ce qui s'est passé en début d'année.
Une question de survie pour les libraires, d'autant que parallèlement, le livre sera toujours vendu en grande surface ou sur les plateformes internet. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et l'économie fortement impactée, bien sûr, par la période trouble que nous vivons. Le gouvernement table désormais sur une récession de 11% en 2020, annonce à l'instant Bruno Le Maire.
Les Américains appellent cela le money time, les ultimes instants d'un match. Un match sous haute tension. Nous sommes à 4 jours de l'explication dans les urnes entre Joe Biden et Donald Trump.
Scrutin présidentiel et le Covid, toujours bien sûr l'un des thèmes centraux de cette fin de campagne. Alors que le pays a enregistré plus de 91 000 contaminations hier, record en 24 heures, les deux candidats étaient en Floride.
La Floride où vous vous trouvez, Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour à tous.
Comme tous les jours dans le journal de 8h, on retrouve votre carnet de campagne. Vous avez sillonné les États-Unis pendant 2 semaines. Dernier épisode aujourd'hui.
En Floride, 29 grands électeurs en jeu de taille et ça s'annonce serré parce qu'il y a incertitude sur le vote des seniors. C'est une partie de la base électorale de Donald Trump, mais elle semble s'effriter, vous l'avez constaté Théo, dans un endroit, alors pour le moins singulier, un endroit interdit aux jeunes. Ça s'appelle The Villages, la plus grande communauté de retraités du monde.
Oui, paradis au soleil pour retraités argentés. 83 km carrés de lotissement sécurisé, de parcours de golf orné de palmiers. Pour s'installer ici, il faut avoir plus de 55 ans. Comme beaucoup, Joan se déplace surtout en voiturette de golf sur laquelle elle affiche ses couleurs politiques. Et l'autocollant sur son pare-choc vient de changer de couleur.
Ça disait « fier républicain », mais je l'ai changé pour démocrate. J'étais républicaine, mais Trump a détruit notre pays. Dès le début, il savait que ce virus était grave. Et il n'a rien fait. Il n'a pas écouté les médecins. Si on avait porté le masque dès le début, on n'aurait pas eu autant de morts. Je vais avoir 76 ans et j'ai peur pour ma santé et ma sécurité.
Au point donc de changer de bord politique, comme son voisin Jeff, qui lui aussi votera Biden.
On a un ami parti en soins intensifs il y a 2 jours parce qu'il n'arrivait plus à respirer. Il n'est pas sorti d'affaire, il est encore sous oxygène. Trump dit que le virus est parti, que c'est fini. Mais non, non, 83 000 contaminations hier, c'est un nouveau record. Je prie tous les jours pour que Biden gagne.
Les plus de 65 ans représentent 80% des victimes du Covid aux États-Unis, ce qui explique chez certains ce changement de discours. Mais l'équipe de campagne du président reste assez confiante sur le soutien des seniors. L'écrasante majorité des voiturettes aux Villages affiche toujours un sticker Trump. Il faut le défendre, explique Joanne.
Il a sorti ce pays de l'ornière. Évidemment que c'est dommage cette crise, mais il n'est pas médecin. Et même les médecins ne savent pas quoi faire. Tout ce qu'on lui reproche, c'est ce virus, mais il a relevé l'économie. Tout le monde avait retrouvé du travail. Everybody had a
job. Et d'ailleurs, tous les retraités gagneraient à ce qu'ils soient réélus, poursuit Marjorie au carrefour suivant, en faisant la liste de tous les accomplissements qui soulagent son portefeuille.
Nos fonds de pension ont grimpé en bourse, ça nous rapporte de l'argent. Il force les labos pharmaceutiques à baisser le prix des médicaments. Il est la meilleure chose qui nous soit arrivée.
Go Trump! Mais jusqu'au bout, les militants démocrates occupent l'espace comme ils peuvent. Un avion passe au-dessus de nos têtes, une banderole s'étire dans le ciel. Le message, votez Biden.
Théo Manval pour le dernier carnet de campagne de l'élection présidentielle américaine. Vous nous avez accompagné pendant 2 semaines. Tous vos reportages à retrouver sur Europe1.fr.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h13. Nice, notre ville adorée, à nouveau pétrifiée, décapitée. Ce sont les mots du réalisateur comédien Nicolas Bedos sur les réseaux sociaux. Alors nous l'avons rappelé sur Europe 1, il se présente comme un niçois de cœur. Pourquoi cette prise de parole? Il y a aussi un message politique dans ce que vous allez entendre. Nicolas Bedos.
Je pense qu'on n'a plus envie d'entendre de phrases creuses, on n'a plus envie de minutes de silence, je crois qu'on n'a plus envie de recueillement. L'émotion, elle a été épuisée déjà Il y a des décisions qui doivent être prises, mais tout de suite.
Nicolas Bedos, au micro Europe 1 de Marjorie Adelson, à 8h14. Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité, justement. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, Christian Estrosi, le maire d'une ville martyre. Le maire de Nice, ville tragiquement éprouvée par le terrorisme islamiste, comme toute la France, et en particulier les chrétiens ciblés. Mais les bougies et les fleurs ne suffisent plus. Quel sursaut alors ? À tout de suite pour en parler.
8h14.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h17 sur Europe 1, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Christian Estrosi, le maire de Nice.
Bonjour monsieur le maire de Nice, bonjour Christian Estrosi.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Au lendemain de l'attaque barbare dans l'église Notre-Dame de Nice, le choc est immense pour l'ensemble des Français, dont les Niçois bien sûr déjà tragiquement éprouvés et les chrétiens ciblés. Quel est votre état d'esprit ce matin et celui de vos administrés ?
Bien évidemment, nous sommes bouleversés. Mais si vous parlez de mon propre état d'esprit, je pourrais vous dire que c'est la colère qui prend le dessus. Ce ne serait pas raisonnable. Voilà mon devoir, alors que Nice est frappée pour la quatrième fois en moins de 5 ans. Et naturellement, de rester lucide, de garder mon sang-froid et d'être le premier protecteur des Niçoises et des Niçois. Chacun d'entre eux vit dans la peur désormais, en ce week-end de la Toussaint. Et s'ils ne savaient pas que leur maire était là avec l'ensemble d'une administration, avec une mutualisation des forces de l'État et de la collectivité pour être attentif à chacun d'entre eux, ce ne serait pas raisonnable. Voilà pourquoi j'essaie de contenir cette colère et de ne pas la laisser me submerger.
On va voir comment cette colère...
Je ne vous cache pas que... Comme tous les Niçois, j'ai des cicatrices de ce qui nous est déjà arrivé par le passé, notamment je pense à ce terrible 14 juillet 2016, et qu'à chaque fois ces cicatrices redeviennent des plaies béantes au fond de nous-mêmes.
Bien sûr, et on va voir comment transformer cette colère en vous et en beaucoup de Français en sursaut. Mais tout d'abord, monsieur le maire, nous pensons aux familles, bien évidemment, des 3 victimes, dont celle du sacristain de la basilique qui comptait beaucoup pour les paroissiens. Est-ce que d'ores et déjà les mesures annoncées par le gouvernement pour protéger les églises en cette période de la Toussaint vous paraissent suffisantes ?
D'abord, le sacristain ne comptait pas que pour les paroissiens. C'était un homme très connu à Nice, dans d'autres paroisses, et puis bien au-delà, puisque je suis originaire de Nice, natif de Nice, mais aussi de mon petit village de Saint-Étienne-de-Tinée, dans le parc national du Mercantour, dont il est lui-même originaire. Et je pense à toute la population de ce petit village qui fait partie de ceux qui ont été meurtris par les intempéries et qui pleure aussi Vincent Loquès ce matin. Donc, il va falloir nous relever. Il va falloir, une fois de plus, naturellement, passer le temps de la compassion et de l'émotion. Mais je le dis cette fois, on ne peut plus se permettre de dire l'unité. L'unité de la nation dans le recueillement, dans l'hommage, dans la volonté d'agir. La volonté d'agir ne suffit pas. Il faut des actes et des actes immédiat.
Et vous le dites, on ne peut plus combattre l'islamo-fascisme avec les lois actuelles, mais que faut-il ? Comment s'armer démocratiquement malgré tout ? Est-ce que vous proposez des prisons de haute sécurité, une loi spécifique punissant l'intelligence avec l'ennemi ?
Mais la démocratie, qu'est-ce que c'est ? La démocratie, c'est le respect de la Constitution. Ça veut dire que si on nous impose aujourd'hui de respecter des points de la Constitution qui ne sont pas adaptés à pouvoir mener la guerre en respectant la Constitution, eh bien, il faut modifier la Constitution. Voilà, je ne peux plus accepter, alors que je mène ce combat. Vous savez ce qui s'est passé hier matin ? C'est d'abord un citoyen niçois qui a eu le courage d'appuyer sur un bouton d'alerte que j'avais positionné devant cette église. On se moquait beaucoup de ces boutons d'alerte il y a un an lorsque je les ai posés. Les caméras de vidéosurveillance qui ont pris le relais. 9h34, le meurtrier qui pénètre dans l'église. 9h38, une équipe de 6 policiers municipaux qui sont en mesure de le neutraliser et de lui tirer dessus.
Monsieur le maire, une réaction très rapide, il faut le noter, insister sur la réaction de ces policiers municipaux de votre ville, très rapidement sur les lieux, qui ont neutralisé avec maîtrise et sang-froid l'assaillant en quelques minutes.
Donc je leur rends hommage, tout comme je rends hommage à tous les secouristes, à toutes les forces de police nationale, du RAID, qui ensuite ont d'investiguer l'Église, naturellement. Mmh. Et puis, je veux penser au symbole que ça représente. C'est Nice, c'est la France, c'est une Église. Il y a 14 jours maintenant, Samuel Paty, c'était l'école. On s'en prenait à l'école de la République. Aujourd'hui, on s'en prend à l'Église catholique. Samuel Paty, permettez-moi de vous dire une chose, c'est ce professeur courageux, mais qui, par précaution, demandait à des élèves qui pouvaient être choqués par le cours, l'instruction, la connaissance du savoir qu'il allait transmettre, de sortir de la classe. La première chose, c'est que tous les professeurs d'histoire doivent désormais, lorsqu'ils enseignent les croisades ou l'Inquisition, ne pas demander à des élèves que ça choquerait de sortir. Lorsqu'ils enseignent ce qu'incarne l'islamofascisme ou une caricature
mais
du
monsieur
prophète,
le maire, bien
ne
sûr,
pas sortir.
Bien sûr, vous
et
avez raison.
Et lorsqu'on parle de la Shoah,
mais,
ne pas demander aux
pression,
antisémites de
maire,
sortir
monsieur
de l'école.
Estrosi, cette pression islamiste, cette pression de l'islam politique, vous la ressentez? Vous la voyez à Nice, dans les écoles, dans certains lieux du culte, parce qu'on paye 40 ans de lâcheté, de compromission?
Vous avez raison. Nous payons tout simplement ces 40 ans de lâcheté. Il y a 5 ans, j'illustrais ce qu'était la cinquième colonne. Elle a prospéré depuis. Elle est là. Enfin, un président de la République et un chef de l'État, au nom de l'État, a identifié pour la première fois, avec des mots, puisqu'il l'appelle l'islamisme radical, ce sont les termes utilisés pour dénoncer l'ennemi par Emmanuel Macron. Donc, c'est déjà une avancée que la plus haute autorité de l'État enfin désigne l'ennemi. À partir du moment où il est désigné, eh bien, nous savons que nous ne pourrons pas gagner la guerre contre cet ennemi avec les lois de la paix.
Mais vous l'avez aussi dénoncé, monsieur le maire, avec vos mots. Hein, vous l'avez dénoncé il y a déjà quelques années. La cinquième colonne islamiste.
Je ne suis pas le chef de l'État, je ne le suis pas.
Bien sûr.
Il y en a un qui l'est.
Mais je m'adresse au maire que vous êtes, parce que dans certaines villes, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des compromissions électoralistes? Certains, au Rassemblement national, accusent certains maires, dont vous, monsieur Christian Estrosi, de marcher main dans la main avec l'UOIF dans votre ville, soupçonné de lien avec les frères musulmans.
Moi, je ne polémiquerai pas avec des partis politiques, surtout au lendemain de cette tragédie qui essaie simplement de nourrir leur existence de mensonges, de populisme, de belles phrases et qui ne sont en aucun cas des acteurs. Dans le séparatisme, on a pris en exemple ce que fait Nice depuis 5 ans avec sa charte de la laïcité qui supprime tout... mise à disposition de lieux publics, culturels, sportifs ou subventions à toute association qui se compromettrait justement avec ce type d'organisation. Donc je pense que nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces tristes personnages.
Monsieur le maire,
aujourd'hui... Oui,
l'assaillant, on a bien entendu votre réponse, l'assaillant, monsieur le maire, un Tunisien de 21 ans, est entré en Europe, en Italie, via Lampedusa, puis en France il y a seulement quelques jours. Est-ce que vous-même, vous avez plus d'éléments sur son parcours?
Je n'en ai pas plus, si ce n'est que d'après les informations dont nous disposons aujourd'hui, il n'était pas facilement traçable puisqu'il n'avait fait aucune demande pour pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un droit d'asile. Mais naturellement, parce que la France, ça paraît un peu trop comme le pays, le symbole des libertés. Aujourd'hui, je pense qu'il faut s'attaquer à quelques-unes de ces libertés.
Mais un exemple, par exemple, il avait...
La COVID-19, permettez-moi de vous dire qu'on a privé quand même les Français d'un certain nombre de libertés auxquelles ils ont consenti pour lutter contre ce virus. L'islamofascisme est un virus. Nous avons... des bombes permanentes qui sont sur notre territoire en situation d'exploser à tout moment.
Alors,
ce sont
comment
des bombes
y remédier? Par exemple, monsieur le maire, cet assaillant avait un papier de la Croix-Rouge. Est-ce qu'il faut une suspension de tout flux migratoire, une procédure d'asile qui est suspendue, notamment à la frontière italienne? Est-ce que vous le demandez?
Il ne faut pas mélanger les flux migratoires et le terrorisme, mais par contre, un filtrage de ces flux migratoires est une exigence.
Un filtrage comment? Par quel moyen?
Mais tout simplement, dès la frontière, est-ce que quelqu'un est habilité à rentrer en France pour demander un droit d'asile ou pas? Sans ça, on retourne chez soi. Et d'ailleurs, je propose depuis un certain nombre d'années que lorsque l'on sollicite un droit d'asile, on ne le sollicite pas à la frontière française, mais on le sollicite dans les consulats français, dans le pays d'origine. Et si on vérifie dans ces consulats français, dans les pays d'origine, qu'on n'est pas admissible au droit d'asile, on ne peut pas arriver jusqu'à la frontière sans ça, on est refoulé immédiatement. Voilà ce que je suggère. Et puis il faut dissoudre rapidement toute organisation s'attaquant aux valeurs de la République.
Monsieur le maire,
je demande d'ailleurs que les maires aient la compétence pour le faire. Il n'est pas normal que sur le territoire de ma commune, alors que nous savons qu'il y a une mosquée qui est financée par l'Arabie saoudite et qui a commis des infractions graves.
Laquelle ?
En matière de... Ah bah tout simplement, on a bâti des entreprises pour pouvoir structurer cette mosquée. Elles ont déposé leur bilan après. Personne ne peut être poursuivi et on ne prononce pas sa fermeture. Je veux, en tant que maire, avoir le droit de prononcer une fermeture administrative d'un lieu de culte où je sais qu'il ne se passe pas des choses qui sont conformes aux valeurs de la République.
Évidemment,
je
vous demandez ses prérogatives.
Une école hors contrat, lorsqu'on n'y respecte pas les principes de la République française. En même temps, je demande, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, que nous donnions des pouvoirs supplémentaires.
Monsieur le maire, vous dites, si je vous entends bien ce matin, donnez-nous le pouvoir de faire, donnez-nous le pouvoir d'agir.
Mais que le pouvoir soit partagé entre l'État et les maires qui ont la volonté d'agir. Alors que j'ai un réseau de caméras de vidéosurveillance de 3800 caméras et que nous avons développé l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale à cause d'une institution poussiéreuse qu'est la CNIL, les gouvernements successifs ne cessent de m'opposer que nous ne pouvons pas utiliser la reconnaissance faciale, que je n'ai pas le droit de disposer des fichiers des personnes dangereuses qui sont sur mon territoire ou de disposer du nom et de l'adresse des personnes qui ont été refoulées au droit d'asile et qui ne sont pas renvoyées chez eux. Eh bien, il y est temps qu'il y ait une cogestion entre les maires, les préfets, le gouvernement. Voilà, les choses doivent être très claires et en même temps que le président de la République, qui est le chef des armées, se voit doté pour un temps précis d'un pouvoir supplémentaire pour prendre des mesures d'exception.
Pour un sursaut salutaire,
de donner
bien
des
sûr.
Pouvoirs supplémentaires
Merci.
Exceptionnels.
Merci, monsieur le maire, on vous a bien entendu. Merci d'avoir réagi sur l'antenne d'Europe 1 au lendemain de cet acte barbare. Et à l'instant, on vient d'apprendre qu'un homme de 47 ans, soupçonné d'avoir été en contact avec l'assaillant qui a tué 3 personnes dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, a été placé en garde vue ce jeudi soir, apprend-on de sources judiciaires.
Il faudra modifier la Constitution si c'est nécessaire, nous dit Christian Estrosi, le maire de Nice, sur Europe 1, au micro de Sonia Mabrouk. Ce matin. Merci Sonia, il est 8h29.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'info Émilie Dez et la météo, Laurent Cabrol. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h32 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Émilie Dez.
C'est la France qui est attaquée, mais nous ne céderons rien, prévient Emmanuel Macron. 3 personnes, un homme et 2 femmes, ont été tuées hier dans une attaque terroriste à Nice. L'auteur présumé, un Tunisien de 21 ans, est grièvement blessé. Un homme de 47 ans est actuellement en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir été en contact avec l'assaillant la veille de l'attaque. D'après Nice Matin, il lui aurait fourni un téléphone. 4 ans après l'attaque de la promenade des Anglais, les Niçois, à nouveau endeuillés, sont sous le choc, tout comme la communauté chrétienne directement touchée. Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre, était ce matin l'invité de Simon Rubin sur Europe 1. Il s'est dit bouleversé de cette violence dirigée vers des personnes venues simplement pour prier. Mais malgré la menace, il assure que les églises doivent rester ouvertes.
Évidemment qu'aujourd'hui, il y a de l'inquiétude. Cela dit, les églises sont faites pour être ouvertes. Vous savez, il y a eu le débat sur le reconfinement. La question même du maintien des églises ouvertes s'est posée. Je suis soulagé que sur ce point, au moins, nous ayons pu obtenir que les églises restent ouvertes, parce que ce sont des lieux d'accueil à tous. Eh bien, quoi qu'il en soit, des inquiétudes et des mesures de sécurité qu'il faut prendre aussi, les églises sont faites pour être ouvertes et je souhaite qu'elles le demeurent.
L'évêque de Nanterre, Monseigneur Rouget, invité ce matin de Simon Rubin sur Europe 1. La France est désormais en alerte urgence attentat. Un conseil de défense est prévu ce matin.
Et vous avez entendu le maire de Nice, Christian Estrosi, au micro de Sonia Mabrouk, depuis Nice, avec les moyens techniques de Frédéric Michel. Il faudra modifier la Constitution si c'est nécessaire, dit-il. Il faudra modifier la Constitution. les maires, le maire en l'occurrence, demande plus de prérogatives.
Première matinée de reconfinement pour les Français qui doivent à nouveau se déplacer avec une attestation dérogatoire en poche. Le gouvernement a bien précisé que le télétravail n'était pas une option. Pourtant, hier, on a battu des records de bouchons en région parisienne. On pensait que les citadins avaient décidé de partir se confiner à la campagne. Sauf que ce matin, sur le périphérique et dans le RER, il y avait encore beaucoup de monde, à la grande surprise de Flora, interrogée ce matin par Europe 1.
Je trouve ça un peu étonnant aussi, on est quand même dans une période un peu compliquée, et enfin le confinement, et de voir qu'il y a autant de monde, ça me choque aussi un peu. Bah, il n'y a pas de changement en fait. Enfin, il y a peut-être une quinzaine de personnes en moins, mais c'est vraiment, y a vraiment peu de changement. Il y a beaucoup plus de monde, et pour moi, c'est pas un vrai confinement entre guillemets.
Et comme au printemps dernier, les commerces non essentiels ont baissé le rideau hier à l'image des bars et des restaurants déjà durement touchés par la crise sanitaire. Conséquence de cette crise sanitaire, le gouvernement table désormais sur une récession de 11% en 2020, annonce le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
Merci beaucoup Émilie Dez. 8h34, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et je reviens sur les brouillards qui sont très nombreux ce matin, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais compléter un petit peu la liste, hein. Je vous rappelle, il y a toujours Bergerac, Cognac, Gourdon, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle. J'ajoute maintenant Limoges, Agen, Chambéry, enfin les brouillards sont légion dans des contrées où nous aurons justement cet après-midi beaucoup de soleil. Donc ce sont les prémices ensoleillées d'une journée et vous allez voir ces brouillards se disperser, se dissiper pour laisser place de très belles éclaircies et un ciel bleu. Et puis des régions verront aussi le ciel devenir de plus en plus bleu, Pays de la Loire, Vendée, Berry, et puis sur les autres régions, celles de la moitié nord, eh bien ce sera un temps souvent couvert, notamment sur Paris avec quand même un rayon de soleil cet après-midi. Il en sera de même sur le nord, la Lorraine, les Vosges et la Bourgogne. Température 17 à 20 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Il est 8h35. À suivre Notre Santé avec le docteur Jimmy Mohamed de Notre Planète, Fanny Agostini. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1. L'actualité est très riche et lourde parfois. Je voudrais simplement souligner ce qui s'est passé hier. Europe1.fr a enregistré une audience record. 3,5 millions de visites au total sur la journée, un record battu d'un million de visites. Alors ce sont des chiffres comme ça, ça ne dit peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, je veux juste vous dire merci de votre confiance, merci de la confiance que vous accordez au travail de la rédaction d'Europe 1 au quotidien et particulièrement à la rédaction numérique Europe1.fr qui demeure, vous le savez, totalement mobilisée comme au printemps dernier pendant ce confinement pour vous faire vivre l'actualité. À vous internautes, à vous auditeurs d'Europe 1, un grand merci encore une fois de votre confiance. 8h38, Jimmy Mohamed est avec nous, c'est Notre Santé. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et d'ailleurs, j'en profite, dès la semaine prochaine, nous publierons des vidéos sur les réseaux sociaux du docteur Jimmy Mohamed lui-même, qui va nous donner des bons conseils pour vivre au mieux ce reconfinement. C'est l'idée que vous avez soumise à Europe1.fr, on va vous retrouver quotidiennement. Jimmy, oui. Avec nous ce matin, nous allons parler d'alimentation, et plus précisément de cette étude de l'Inserm qui montre que certains produits industriels pourraient entraîner des maladies du tube digestif.
Oui, alors on sait tous que l'alimentation peut influencer notre microbiote. Vous savez, le microbiote, c'est la flore intestinale. C'est les milliards de bactéries qui vont coloniser notre tube digestif que nous avons de façon normale. Cette flore digestive, elle est propre à chacun. Vous et moi, Mathieu, n'avons pas la même flore digestive. On n'a pas les mêmes bactéries ni la même quantité de bactéries. Eh bien, les chercheurs se sont rendus compte que les émulsifiants pouvaient perturber ce microbiote. Alors, un émulsifiant, c'est quelque chose qui va permettre d'améliorer la texture d'un aliment ou d'en prolonger la durée de vie. On en trouve notamment, vous savez, dans les crèmes glacées que vous raffolez, Mathieu. Elles vont permettre de garantir la texture onctueuse et d'éviter qu'elles ne fondent trop rapidement lorsqu'on les sert. Eh bien, les chercheurs se sont rendus compte que certains émulsifiants donnés à des souris qui ont certaines bactéries, des bactéries qui, à l'état normal, ne sont pas méchantes, ne sont pas agressives. Eh bien, lorsqu'on leur donne ces préparations industrielles, ces bactéries du tube digestif qui, en temps normal, ne posent aucun souci, deviennent virulentes. Elles deviennent beaucoup plus agressives et elles vont créer de l'inflammation au niveau de votre tube digestif. Inflammation qui, sur le long terme, va donner des maladies inflammatoires comme par exemple la maladie de Crohn. Et donc, il y aurait un lien direct entre ces préparations industrielles et des maladies du tube digestif, et par extension, peut-être d'autres maladies que pour l'instant, nous n'avons pas mis en évidence.
Alors, difficile pourtant, Jimmy, de se passer totalement de ces conservateurs dans la vie de tous les jours. Ils sont partout. Est-ce que vous avez des conseils pour les limiter ?
Alors c'est vrai que c'est compliqué d'y échapper. Je vais vous donner trois conseils simples qu'on peut tous appliquer. Évidemment, limiter les produits industriels, essayer de cuisiner, c'est pas facile, mais bon, c'est le premier des conseils, il est évident. Plus une liste est longue dans une liste d'ingrédients, plus elle est suspecte. si les ingrédients que vous regardez au dos d'une petite d'une boîte de biscuits, eh bien vous ne pouvez pas trouver les ingrédients dans votre cuisine, vous ne pouvez pas établir vous-même la recette, eh bien mettez-les de côté. Et enfin, soyez particulièrement vigilant avec le sucre. Pas de problème à manger des produits sucrés. Mais ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous regardez la liste des ingrédients, privilégiez le vrai sucre. Il ne faut pas qu'il ait marqué sirop de sucre ou sirop de glucose, puisqu'on sait que ça aussi, ça va perturber le microbiote des enfants. Vous l'aurez compris, Mathieu, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au fourneau et à travailler un petit peu.
Eh bien, écoutez, on va s'y mettre. On va s'y mettre, mon cher Jimmy. C'est la prescription du docteur, le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Merci beaucoup. Il est 8h41 sur Europe 1. Et puis, tiens, Jimmy, restez à l'écoute. Hier, auditionné à l'Assemblée nationale par les députés de la commission d'enquête sur le Covid, Édouard Philippe parle des scientifiques. Scientifiques qu'il a consultés à Matignon.
Ceux que j'ai vus étaient, dans mon bureau, des exemples de précision et d'humilité. Il se trouve que parfois les mêmes sur des plateaux prenaient les travers les plus terribles en étant d'un jugement définitif. Les mêmes. J'ai vu là le même effet maléfique que je constate parfois chez les responsables politiques qui, par la grâce du plateau et de la chaîne d'info continue, deviennent maximalistes, définitifs et tranchés. C'est donc humain, manifestement.
Je voulais partager avec vous, chers auditeurs, cet élément sonore d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationale. Un peu de réflexion sur ce qui s'est passé ces derniers mois. 8h42. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À l'annonce du reconfinement, une tribune a été adressée au président de la République pour demander un droit d'accès à la nature pendant les semaines à venir.
Oui, c'est ça. Une lettre à Emmanuel Macron l'implorant de ne pas tomber dans les mêmes contradictions que lors du dernier confinement en privant les Français de nature, les bornant à une sortie par jour et uniquement autour de leur pâté de maison. Cette demande écrite par un médecin et un accompagnateur montagne est co-signée par des personnalités comme l'apnéiste Guillaume Néry, André Sicolella, le toxicologue président du réseau Environnement Santé ou encore Delphine Bateau, députée et ancienne ministre de l'écologie, ainsi qu'une vingtaine de professionnels de santé et de sportifs nature, tous réclame un accès responsable à la nature, un droit apparaissant comme indispensable et surtout plus juste aussi vis-à-vis de ceux qui habitent en appartement sans jardin ou qui n'ont pas le luxe de se rapatrier dans leur résidence secondaire.
Alors se disperser dans la nature n'aurait pas d'incidence sur la circulation du virus ?
Eh bien, les promenades, les randonnées, le trail, les sorties yoga, photographie, du moment que cela ne se fait pas en groupe, aller au grand air, en forêt, sur les GR de son département, aux abords de la ville, pour aller respirer l'air frais et pur, cela n'a rien de risqué, en tout cas pas plus que de faire un énième tour sur les quais de Seine ou entre la supérette et son domicile. Il serait bon, donc, d'assouplir ce nouveau confinement et de laisser les Français sortir sans bien sûr s'agglutiner et d'élargir le périmètre des 1 km qui ne fait que rajouter du stress et de la tristesse à la situation.
Alors dans cette lettre, les auteurs argumentent en disant que ce serait un gain pour notre santé et pour notre immunité.
Eh bien oui, dans une période où nous avons grand besoin de prendre soin de nous et sur le plan psychologique et immunitaire pour être plus résistant face au virus, supprimer l'accès à la nature est très pénalisant. Cela peut même renforcer la névrose et favoriser les pathologies. Différentes études montrent d'ailleurs que notre bien-être physique et psychologique est intimement lié à notre degré d'interaction avec la nature. Le chercheur Mass a démontré que sur 400 000 personnes, les troubles mentaux, musculo-squelettiques et respiratoires étaient plus élevé chez les personnes qui avaient seulement 10% d'espace naturel dans leur lieu de vie que celles qui en avaient pleinement accès. Ne minimisons pas l'impact de cette privation et tentons surtout de trouver un deal plus juste dans lequel le droit à la nature permettrait aussi de lutter contre la propagation du virus.
Notre planète, merci Fanny Agostini. 8h44 dans quelques toutes petites secondes. Nous retrouvons Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h47, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on va tout de suite retrouver Mathieu Béliard pour des nouvelles du monde.
Et oui, ma chère Julie. Voilà, le monde est stone, vous l'avez compris, on en parle depuis tôt ce matin avec Simon Ruben et mes camarades de la rédaction. Pandémie mondiale, reconfinement, crise économique, attentat, vous l'avez compris, on est ravis de se lever le matin pour vous annoncer toutes ces bonnes nouvelles et pour écouter surtout des chroniques de Jimmy Mohamed sur les maladies de la flore intestinale. Non, je vais rien vous cacher, chers auditeurs, parce que je suis transparent avec vous. On se connaît maintenant, j'ai le moral très, très, très moyen. Je vous le dis, je prends des douches de 3/4 d'heure roulées en boule au fond de la cabine de douche. J'ai envie de pleurer devant les films où les gens se font juste la bise sans mettre de masque. Ça m'impressionne.
Ah, pardon, Mathieu, il y a Nelson Montfort qui souhaite intervenir. Alors, Nelson.
Pardonnez-moi, mon cher Mathieu, mes chers Gilles, de vous interrompre, excusez-moi. Pendant votre travail, mais écoutez, je me devais de vous donner cette information sportive puisque la journée d'hier s'est classée à la première place du championnat de France des journées de merde, édition 2020. Il faut dire que cette journée nous a fait un sans faute au niveau de l'envie de se bourrer le cornet avec des Xanax. Le 13 mars a été battu à plate couture, mais attention, 2020 est une année pleine de surprises. Le championnat des journées de merde n'est pas fini, il reste 2 mois encore. Va-t-il y avoir pire? Nous verrons. C'est la beauté de l'incertitude du sport. À vous Julie, à vous Mathieu.
Merci Nelson pour ces... Si, ça m'a fait sourire, pour ces bonnes nouvelles. Heureusement ce matin, on a eu un petit moment de bonheur à l'antenne. On vous repasse l'extrait.
Les cinémas, les théâtres et les musées sont fermés.
Jean-Gabriel Bourgeois s'est rendu au musée du Quai Branly. Du Quai Branly.
Bonjour. C'est Dominique Lomanti. Oui, j'ai, vous l'avez compris, ouvert mon propre musée. Le musée du Quai Branly. J'étais inspiré par ma principale activité lors du dernier confinement. Merci Monsieur Troscan d'essayer de nous redonner le sourire à votre façon, il faut bien lire, et merci à la rédaction de se louper de temps en temps aussi pour la même raison. Vous voyez, toute la rédaction d'Europe 1 est mobilisée pour vous redonner le sourire quelque part, même si on ne fait pas toujours exprès. À vous, Julie.
Oh, c'était magnifique, on le garde celui-là. Allez, merci messieurs. Le Premier ministre a dévoilé hier les modalités du reconfinement. Bonjour Jean Castex.
Oui, bonjour madame, j'ai apprécié votre dernière petite intervention. Bonjour monsieur Béliard, bonjour aux papis et aux mamies.
Ah,
et bonjour, voilà, je viens pour remettre quelque part un peu de bonne humeur, de joie, puisque je viens vous parler reconfinement.
Ah oh, bah tu parles.
Exactement comme le président de la République, mais... avec l'accent du Sud, et vous en conviendrez, c'est tout de suite plus gai.
Alors, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, hein, si on a bien compris.
Tout de même, vous avez des tas de loisirs encore disponibles.
Ah bon ?
Bah, si, alors, nous pouvons tout un chacun aller au cimetière, dans le froid, sous la pluie. Vous pouvez aller, je ne sais pas, à l'EHPAD. Et vous voyez, vous pouvez voir papy ou voir mamie, peu importe même dans quel état ils sont,
oh
mais
non.
Vous pouvez y aller.
Non, mais vraiment. Allez, c'est le retour aussi de l'attestation, Jean Castex.
Tout à fait.
Ben oui.
Tout à fait. Là, par exemple, vous voyez, j'ai la mienne. En bonne et due forme, où est indiqué Jean Castex, c'est moi, Premier ministre. Oui, oui, parce qu'il y a marqué profession. Je préfère le notaire parce qu'il m'est arrivé que les policiers ne me croient pas. Et donc, je prends une amende de 135 € de façon un peu saute. Mais bon, en général, en parlant de sauter, je la fais sauter en général parce que j'ai quelques relations à haut niveau.
Mais qu'est-ce que tu fous à parler aux Français? T'as quelque chose à annoncer de plus que moi? Non? Alors, tu les laisses déprimer, tranquille, d'accord, hein? Tu as fait ton intéressant hier, maintenant, tu te tais, ok? Voilà. Excusez-moi, Mme Julie, M. Cabrol, M. Béliard, je le sors le moins possible. À chaque fois qu'il apparaît, il perd 3 points dans les sondages.
Bon, je crois que je viens de me faire houspiller par le président. Voilà, je vous laisse. Juste une autre chose. Contre le Covid, vous téléchargez Stop Covid. Voilà. Et contre l'islamisme, vous les téléchargez Stop Covet. Voilà.
Ah, Covet.
Oui, oh, c'est un petit jeu de mots qui paiera au papy et au mari. Voilà. Joyeuse Toussaint à tous.
Oh, bah merci, c'est gentil.
Bon, allez, tu rentres. Oh, quelle période même, Julie. C'est bien simple. Vous savez quoi, j'ai l'impression d'être François Hollande. Lui essayait d'inverser la courbe du chômage. Moi, j'ai essayé d'inverser
la coupe du Covid, mais voilà, avec le même succès que lui, vu qu'elle explose. Bon, je comprends pourquoi il ne s'est pas représenté. Franchement, mais quel job de merde. Non mais 2022, je ne sais pas si j'y vais.
Allez,
je sais plus,
courage.
Je sais plus.
Allez, bon courage, monsieur le président. Par rapport au premier confinement, notons ce changement. On peut rendre visite aux personnes âgées dans les EHPAD. On va appeler un EHPAD justement pour voir comment ça se passe.
Bonjour, maison de retraite Pécunia de Bordeaux-Mérignac. Christian, à votre écoute, ne quittez pas, je vais patienter en musique, je vous écoute à votre écoute.
C'est une maison de banlieue, avec des vieillards aux fenêtres, les plus tristes ou les plus curieux, regardent le jour disparaître.
Merci de la patiente en musique. Que puis-je pour vous? Non, calmez-vous, tout le, s'il vous plaît. Non, messieurs, dames, s'il vous plaît. Vous prenez un ticket. Vous faites la file comme les autres. Je vais perdre ma voix si ça continue.
Oh là là là, Christiane, bonjour, c'est Julie là, Europe 1. Mais dites donc, il y a l'air de... Si, si, il y a l'air d'y avoir du monde là-bas chez vous.
Oh, madame Julie, ça me fait plaisir toujours de vous entendre.
Eh ben, moi aussi, ça me
oui,
fait
non,
plaisir.
Excusez-moi, non, excusez-moi, je suis un peu débordée. C'est la folie ici. J'ai Oh, j'ai fermé la porte parce que j'ai 450 personnes qui attendent devant l'établissement.
Oula.
Non, monsieur, ne trichez pas, non. Non, il y aura des vieux pour tout le monde. Pardon. Non, mais les gens sont insupportables. Ah non, mais depuis... Non, mais il y a monsieur Cabrol et monsieur Béliard qui est avec moi. Oh, ils s'ennuient. Non, je vous explique. Non, mais depuis qu'ils ont... Les gens sont insupportables. Depuis qu'ils ont compris que la seule excuse pour sortir chez soi, c'est de venir jouer au domino avec un vieil oncle. Ah, mais ils sont à fond, à fond, à fond. Pour sortir, c'est ça. Et voilà, mais c'est... Non, mais il faut avoir un vieux ou avoir un chien. Voilà. Mais bon, un chien, il faut s'en occuper.
Oh, non. Dites-moi, ce sont vos pensionnaires qui doivent être contents alors avec toutes ces visites.
Oh, ça les fatigue quand même à nos pensionnaires. Ah oui, il y en a... Vous savez, il y en a qui n'avaient vu personne depuis 1996. On a le record, 96.
Oh là là.
Quand même, ils prenaient presque la poussière. Ah oui. Et là, il y a tout d'un coup, alors là, on ne sait pas ce qui se passe, comme les abeilles, comme une ruche, il y a 300 personnes qui veulent jouer au rami avec eux. Non. Vous savez, ça, 300 personnes, si. Ça me rappelle quand je suis allé au concert de François Feldman. Non, madame, non, vous ne... S'il vous plaît. Un peu de respect. Non, vous ne touchez pas à monsieur Giscard d'Estaing. Les distances. C'est agréable. C'est fou, c'est incroyable. Des femmes qui se jettent sur moi. Ça me rappelle ma jeunesse. J'ai l'impression d'être un boy band dans les années 90. Bon, il va falloir... Non, stop, on arrête. Bon, il va falloir que je vous laisse, madame Julie, parce que ça dégénère.
Ouais, j'entends ça. Ben,
on va de surprise en surprise avec ce Covid. Hein. Le monde change. Hein. Honnêtement, en 2019, qui aurait cru que les vieux intéresseraient quelqu'un?
Ah, comme vous dites. Merci, Christiane. À très bientôt. Allez, pour terminer, on va parler culture. Tiens, la grande oubliée du discours l'autre soir. Évidemment, le reconfinement est une catastrophe pour les théâtres et les cinémas. On est en ligne avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Est-ce que vous nous entendez, madame Bachelot?
Mon maillot de bain rose, ça s'est fait.
Qu'est-ce
dans la valise de la crème solaire.
Madame Bachelot,
voilà. Où est-ce que j'ai mis mes chemises à fleurs?
Madame Bachelot, on vous entend là?
Mes claquettes.
Roselyne Bachelot.
Attends. Oh, ça grésille.
Oui. Allô?
Oui.
Oui,
qui est à l'appareil?
C'est Europe 1, Europe 1.
Oh, c'est Julie.
Mais oui.
Oh, mais excusez-moi, non, je suis désolée. Je ne l'ai pas entendu, j'étais en train de faire ma valise pour mes vacances aux Seychelles.
Quoi?
Mais écoutez, on va devoir fermer les théâtres et les cinémas, donc je ne vais plus avoir tellement de travail, alors je me prépare des petites vacances.
Oh, mais enfin, on va quand même avoir besoin de vous, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, les théâtres et les cinémas?
Oh, ben ils vont crever.
Ah, bah, d'accord.
Mais vous savez, il n'y a pas besoin que je sois là, du coup, il n'y a plus rien à faire, donc je peux partir, voilà. Il faut savoir regarder le bon côté de toute cette période, il y a un bon côté à toute chose, enfin. Enfin une bonne nouvelle dans tout ce marasme, j'ai toujours voulu passer Noël dans les îles.
Noël, joyeux Noël, embrassé de fort de France.
Oui, bon. Avec Roselyne Bachelot.
Avec ou sans. Merci Julie, merci beaucoup. Julie, et bravo à Nicolas Canteloup. Vraiment,
Un grand bravo, pardon, j'éteins mon micro, je ne sais pas pourquoi. C'est pas tous les jours facile de faire rire. Hein. Saluons les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Vous retrouvez la revue de presse sur europe1.fr. 8h57, Philippe Vandel est avec nous. Culture Média, c'est la matinée qui continue.
Mais oui, bonjour Mathieu. Notre info média du jour, comment communiquer en temps de crise sanitaire et sécuritaire? Le gouvernement n'a pas toujours été très clair ces derniers jours, c'est un euphémisme. Pour en parler avec nous, l'un des meilleurs communicants de France, Stéphane Fuchs, vice-président du groupe Havas, mais surtout il a conseillé Jospin, Manuel Valls, DSK, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et j'en oublie. Et il sort un livre justement sur ce sujet, crise de com' comme de crise. Au sommaire également, une nouvelle émission pour les enfants, Les Petits Magiciens. C'est présenté par l'illusionniste Sylvain Mirouf de retour à la télé. Donc il n'avait pas disparu. Et puis la reine de l'incruste, véritable phénomène internet, c'est Marie Saint-Filtre. Elle est comédienne, elle est humoriste, des millions de vues. On l'avait vu se faufiler dans un défilé Chanel ou encore dans un meeting avec Cédric Villani. Aujourd'hui, elle s'incruste dans Culture Média.
Dans Culture Média de 9h à 11h avec Philippe Vandel, la matinée continue. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. C'est Pierre de Villeneau qui va vous réveiller samedi et dimanche. Je vous retrouve lundi matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.